Salut à toutes et à tous, bienvenue dans Fin du Game, l'émission qui va au bout des jeux. Moi c'est Hugo, je suis avec Maxime.
Bonjour.
Et je suis aussi avec Exerve.
Salut.
Hello messieurs, on est en plein confinement, alors je le précise, alors pas forcément pour les gens qui nous écoutent à la sortie de l'épisode, parce que a priori ils sont au courant, mais par contre peut-être pour les gens qui nous écoutent, je ne sais pas, en 2022, en 2023, si la société tient toujours debout, eh bien voilà, souvenez-vous, en février, nous étions en plein confinement, en février, en mars, pardon.
C'est des documents très utiles hein, pour les archéologues de 2100, tu vois, de recontextualiser un petit peu ce sur quoi ils tombent, donc si vous trouvez cet audiologue,
exactement, c'est
mon
ça.
Trésor est enterré dans le jardin.
Donné au Patreon, ça permettra aux gens de se souvenir qu'on fonctionnait comme ça à cette époque-là.
Le magot du Patreon est dans le coffre, dans la cave.
À cette époque où la société humaine utilisait encore de l'argent incroyable.
Et pas notre sang, pardon. Alors, du coup, j'en profite quand même pour remercier les gens qui nous soutiennent sur Patreon, parce que même pendant le confinement, eh bien, il y a des gens qui nous ont rejoints, qui continuent de nous soutenir, et ça fait vraiment super plaisir, parce que voilà, on a la chance quand même de pouvoir continuer à faire notre travail, hein, tout simplement, puisqu'on peut le faire à distance en podcast. Alors, on a un dispositif qui est assez exceptionnel. Puisque, exceptionnel, littéralement, bienvenue. Puisqu'on est en vision, visioconférence, hein, c'est comme ça qu'on dit, c'est ça ?
Tout à fait.
En business.
Oui, tout à fait.
On n'est pas en physique, donc voilà, on a essayé quand même de s'organiser pour conserver déjà une qualité sonore optimale. Hein. Moi, je suis dans mon garage où vraiment l'harmonie son est au meilleur. Mais par contre, c'est vrai que on a ce petit décalage qui se crée via la visioconférence, et j'espère que l'émission restera aussi dynamique qu'elle l'est d'habitude. Mais voilà, on s'excuse par avance si jamais c'est peut-être un petit peu moins péchu qu'on a l'habitude de le faire. Mais voilà, on s'est dit qu'on pouvait quand même largement continuer à faire l'émission malgré le confinement. Et encore une fois, c'est grâce à toutes les personnes qui nous soutiennent sur Patreon. Donc, merci énormément à vous. Et on espère d'ailleurs que tout le monde va très bien et que voilà, vous subissez pas trop ce confinement. Mais voilà.
Restez chez vous et écoutez-nous. Voilà, je pense que c'est faites des trucs chez vous, jouez à des
tous
jeux
les
vidéo.
Tous les youtubeurs, ils l'ont dit, hein. Il faut rester chez vous. Donc voilà. Moi, je pense qu'il faut leur faire confiance.
J'ai pas fait ma vidéo. Restez chez vous. Moi,
mais oui, on n'a pas été appelé pour faire ça. Moi, je suis dégoûté. Hein.
Je suis tellement
mon
pas
ego,
en phase, hein.
Mon ego l'a vraiment très mal pris hier.
On n'a qu'à chanter. On fait une petite chanson.
On remercie également Sœur d'édition, notre sponsor qui continue à nous sponsoriser malgré cette situation exceptionnelle. Alors Sœur d'édition, c'est la maison d'édition spécialisée dans les ouvrages consacrés aux jeux vidéo.
Mais pas que,
puisque là en ce moment ils sont toujours sur leur Kickstarter pour financer la traduction des ouvrages. Je crois que c'est surtout tout ce qui est japanime. Hein, c'est leur
label culture où ils ont fait donc Akira, Berserk et celui sur Hayao Miyazaki. Ils ont fait une espèce de package pour que les trois bouquins ils puissent être traduits et qu'ils sortent du coup en Amérique du Nord. Voilà, donc c'est très très cool pour eux de faire ça parce que tu vois, autant en France, il y a déjà beaucoup de bouquins qui parlent de jeux vidéo. Aux États-Unis, il y en a beaucoup, mais ils n'ont pas cette même culture de l'édition. Ils ont beaucoup de bouquins en paperback, etc. Ils n'ont pas forcément des ouvrages un peu quali avec des beaux objets. Et je pense qu'ils ont une vraie carte à jouer là-bas, faire d'édition. Et moi, du coup, en tant qu'auteur chez eux, c'est quand même une occasion supplémentaire de gagner un peu des sous. Donc ça fait plaisir. Voilà, si vous avez des amis qui vivent aux États-Unis, vous pouvez, ou au Canada, voilà, des cousins, vous pouvez leur conseiller de participer.
Et puis aussi, petite précision. Là, en ce moment, encore une fois, si vous écoutez l'épisode pendant le confinement, eh bien, ils offrent leur bouquin au format numérique, donc celui sur Metal Gear Solid, donc toute la saga Metal Gear. Voilà, si jamais ça vous intéresse, vous pouvez télécharger ça gratuitement et voilà, via une appli, soit sur votre téléphone, soit sur desktop, vous pouvez largement lire ça. Voilà, moi personnellement, je viens juste de me mettre à Metal Gear Solid, donc j'étais tout content, encore une fois, j'étais vraiment raccord avec ce qui se passe sur la situation. Donc ça m'arrange bien. Donc voilà, vous pouvez aller télécharger ça. C'est très simple, hein, soit sur leur site, soit via Twitter.
On a fait l'épisode sur Plague Tale, boum, on est confiné. tu commences à jouer à Metal Gear, boum, ils offrent un jeu sur Metal Gear. Enfin voilà, comme d'habitude, pour nos amis, les archéologues de 300 ans, c'était nous qui contrôlions.
C'était nous les Illuminati, c'était nous les patriotes même, à la Metal Gear. Très bien. On a fait tous les remerciements. On va pouvoir attaquer cet épisode sur Transistor. Maxime, comme d'habitude, va se charger de nous sélectionner une des sublimes musiques du jeu. Est-ce que tu as fait ton choix ?
Non, j'ai l'impression d'être à l'épisode, je sais pas, Hotline Miami ou Undertale, tu vois, où c'est un peu. Je sais pas quoi faire.
Ouais, tout le monde va te juger. Hein.
Oui, évidemment, ça ne fera pas plaisir à tout le monde. Il y aura des déçus, mais c'est comme ça, malgré tout, la vie, on peut pas plaire à tout le monde.
Oui. En tout cas, une seule certitude, si je me fie aux commentaires qu'on peut parfois avoir sur YouTube, ce sera à la fois trop court et trop long. Donc, bon, bah voilà.
C'est la musique de Schrödinger, hein. C'est-à-dire qu'elle est à la fois bien et pas bien, mais dans les deux cas, ça ira au bout d'un moment, vous inquiétez pas.
Très bien. Eh bien, on est donc parti pour ce premier épisode de fin du game en confinement total. C'est parti. Alors, Transistor, c'est sorti le 20 mai 2014 sur PS4 PC, c'est évidemment sorti sur Switch après, c'est toujours plus rigolo d'y jouer sur la console portable de Nintendo, d'ailleurs je crois que c'est ce qu'on a fait tous les deux avec Max. C'est le deuxième jeu de Super Giant Games, et c'est cool d'en parler parce que c'est vraiment un de ces studios qui a accompagné, qui a participé à cette première grosse vague du jeu indépendant avec Bastion.
Bastion qui est sorti donc c'était 2011, et c'était la grande époque des Summer of Arcade de Microsoft qui a contribué, en fait, hein, on l'a déjà dit plein de fois, mais à vraiment mettre en avant tout un tas de studios, certains qu'on voit encore aujourd'hui, et du coup, c'est vrai que Supergiant, c'est à cette époque-là qu'on les a découverts.
Ouais, c'est intéressant de noter, parce que donc le studio a été fondé en 2009, et à cette année, il y avait déjà eu des jeux, donc Braid, qui est lui sorti en 2007, mais qui était sorti quelques années après, justement, sur le fameux Xbox Live. Il y avait aussi World of Goo, il y avait plein de versus zombies. Donc ça, c'est des jeux qui citent, que les mecs de Supergiant citent dans le documentaire Onoclip comme inspiration. C'était vraiment une époque où ils ont dit « Hey, vous avez vu là ces petits jeux qui sortent, ça vous dit, on fait la même chose ?» Puisque, c'est le moment de le dire, hein, le studio a été cofondé par Amir Rao et Gavin Simon, qui bossaient tous les deux chez EA. C'est des gens qui viennent vraiment de l'industrie, et comme beaucoup d'autres, nous on avait pu
citer... Ils suivent le schéma vraiment classique dans l'industrie. Ils ont quitté... ils travaillaient sur Command & Conquer, c'est ça, il me semble
Cette licence,
Ouais, ça me fait mal au cœur d'entendre ça, parce que c'était vraiment la fin de la fin, où EA, ils étaient en train de presser le truc en faisant des jeux absolument dégueulasses, malheureusement. Donc je les comprends, ce cher Amir et Gavin, pourquoi ils ont quitté la boîte pour faire
des jeux
un peu plus intéressants.
C'est quoi, c'est relique du Tiberium ou des trucs comme ça? Ils étaient toujours dans des délires comme ça avec Command & Conquer.
Ils savaient pas vraiment quoi faire, en fait. Il y avait là, ils arrivent sur un jeu mobile. Enfin bref, ça fait des années malheureusement que la série n'allait pas très bien. Là, ils vont sortir un remaster du vieux jeu à l'air tout.
Oui, c'est vrai.
Qui pour le coup a l'air un peu plus excitant, mais je pense qu'à l'époque, c'était comme tu l'as dit, en fait, c'était la trajectoire logique. Il y avait plein de gens qui étaient un peu fatigués par les grosses boîtes, ils avaient envie d'essayer autre chose. Microsoft, Steam, etc. Il y a toute l'architecture, vraiment tout le contexte de la distribution du jeu indé qui est en train de se mettre en place, et ils ont pris le train en marche très très tôt, et Bastion a été un gros gros succès.
C'est un jeu vraiment qui a été fait, en plus, encore une fois, un peu dans la caricature de la création du jeu indé, puisqu'ils l'ont fait en coloc, hein, c'est ça. Il y en a plusieurs qui vivaient dans la même maison, il y en a d'autres qui étaient à d'autres endroits. Ça a été vraiment fait un peu dans des garages connectés.
Toi qui es dans un garage, tu le sais. Hein, Non, mais en plus, pour la blague, moi j'avais eu l'occasion de pas mal discuter, j'en reparlerai peut-être avec Amir Rao, donc, qui est un des deux cofondateurs, quand j'avais bossé sur mon bouquin sur Diablo, parce qu'ils sont très très fans de Diablo, et Bastion, c'est un Diablo-like. chien. Oui, voilà, je peux le dire aujourd'hui. Et en fait, à cette époque-là, le père de Amir, il avait une baraque, je sais pas où, vers Los Angeles, enfin en Californie, et donc ils ont invité tout le monde à bosser quelques mois dans le garage. Donc voilà, c'était vraiment du jeu indépendant. Toute l'image d'Épinal où ils vivent les uns sur les autres dans un garage, c'est le cas. Et si jamais, pour l'anecdote, vous pourrez aller chercher, je mettrai le lien, je pense sur le Discord ou sur Twitter, d'une petite vidéo qu'ils ont réalisée parce qu'ils avaient fait un clip à l'époque où ils jouaient beaucoup à Diablo 2. Et voilà, je le remettrai à ce moment-là, ça fera rigoler les
un
gens.
Clip
qui
de
nous
rap,
écoutent.
Oui,
un clip de rap
important
sur Diablo 2. Peut-être évidemment. Le seul clip de rap de Diablo 2 existant sur Terre.
Et du coup, ouais, ils étaient 7, si je dis pas de bêtises, sur Bastion, mais ils étaient pas si indexa, les traîtres, puisque le jeu était édité par Warner Bros. Même si, pour la précision, ils ont quand même auto-financé, en fait, leur jeu, mais Warner Bros. S'est occupé un petit peu de toute la partie marketing, communication, leur a permis d'aller à des salons, et puis bon, c'est
plus
toujours...
la distribution, en fait, qu'ils ont fait, plus cette partie-là, c'était pas vraiment du publishing traditionnel, où ils investissent dans le projet, et après ils récupèrent une grosse part,
ils ont eu
quand même une importance, voilà, ils ont pas pris autant de risques que
ils ont pas pris tous les risques que financiers, et puis bon, c'était évidemment des contacts, hein, puisqu'on a parlé du Xbox Live, et là, évidemment, avoir des personnes chez Warner Bros. Qui valident ton projet, bah forcément, ça aide, quoi.
En tout cas, ils étaient peut-être pas full indés, mais ça leur a quand même permis vraiment d'atteindre, comme tu disais, les sphères de tout le monde qui jouait à l'époque sur la 360, puisque bah, Bastion, ça a été un gros succès critique et commercial. Fin 2015, ils disaient qu'ils en avaient écoulé... je crois 3 millions d'exemplaires en tout. Donc le jeu sur Switch, il est sorti que en 2018. Il y a quand même eu une très belle vie. Et à l'époque, en fait, il y a eu quelques petits éléments qui vraiment faisaient une grosse différence entre Bastion et le reste des jeux indés de l'époque. C'était le narrateur, hein, la voix de Logan Cunningham qu'on entend maintenant dans tous les jeux Supergiant. Sa grosse voix chaleureuse, c'est devenu une des marques de Supergiant. Et le fait aussi que la musique était vraiment omniprésente, hein, puisque Darren Korb, le compositeur, ils ont très rapidement sorti en fait l'album. L'album a d'ailleurs été récompensé par pas mal de prix à l'époque. Et on était en 2011 et la musique du jeu s'était écoulée à plus de 30 000 exemplaires, alors qu'il n'y avait pas encore Bandcamp et tous ces trucs-là, enfin qui n'étaient pas encore aussi répandus. Donc c'était vraiment un gros succès pour l'époque, quoi, Bastion.
Et du coup, c'est vraiment ce qui leur a permis de passer en full indépendant pour leur deuxième jeu, parce qu'avec l'argent qu'ils ont récupéré, quand même, avec 3 millions d'exemplaires, même s'ils avaient cette petite relation avec Warner Bros., ils ont quand même pu récupérer beaucoup de fonds. Ils se sont installés, ils ont vraiment fondé un studio. Cette fois-ci, ils n'étaient plus dans l'appartement du père d'Amir. Ils sont tous réunis à un même endroit et ils se sont lancés donc sur Transistor. Mais la création de Transistor, elle a été assez compliquée quand on regarde un petit peu l'histoire du truc. Déjà, peut-être parce que ils ont dû apprendre à tous travailler au même endroit en tant que studio. Hein. Il y a une espèce de... Pas de professionnalisation, parce que je pense qu'il était déjà avant, mais en tout cas un truc beaucoup plus sérieux, un investissement plus concret, et puis tu joues avec une autre thune, donc c'est pas pareil. Et puis surtout, ils étaient dans une espèce de paralysie un petit peu créative, parce qu'ils avaient pas envie de refaire Bastion tout simplement avec ce deuxième jeu, quoi.
Et ça, c'est quelque chose qui est souvent très très présent dans les récits qu'on peut entendre de développeurs, c'est qu'une fois que tu as connu le succès, faire quelque chose après, c'est très compliqué. Hein. On en parlait quand on avait abordé Hotline Miami, mais c'est quelque chose qui est finalement récurrent chez tout un tas de devs, la peur de la suite. Est-ce qu'il faut faire Bastion 2 et parce que c'est ce que les gens y veulent et c'est ce qui nous permet d'assurer qu'on aura d'un certain nombre de revenus? Est-ce qu'on prend des risques et on change complètement de direction? Et au final, ils ont passé énormément de temps pour faire quelque chose qui, d'un point de vue purement d'apparence, est finalement pas si éloigné de Bastion finalement, parce que Transistor, c'est évidemment pas tout à fait le même jeu, bien sûr, mais il y a par exemple dans le documentaire Noclip qu'on a commencé à citer, Amir Rao, il se moque un tout petit peu d'eux-mêmes parce qu'ils ont passé presque 2 ans à chercher une nouvelle caméra pour finalement avoir un angle de caméra qui est presque identique à celui qu'ils avaient dans Bastion.
Oui, il y a 2-3 degrés de différence, mais effectivement, c'est vraiment quasiment le même angle, et ils ont vraiment pataugé comme ça créativement, et il raconte une anecdote qui est assez intéressante. C'est un moment où justement il n'arrivait plus trop à avancer sur le jeu, et c'est donc Jen Z, la directrice artistique, hein, vraiment celle qui donne les visuels au jeu, elle discutait, je crois, qu'avec Greg, qui est un des designers,
qui est l'auteur,
un des programmeurs,
c'est le game director,
c'est l'auteur
aussi, je crois,
ouais.
Et du coup, ils discutaient et en fait, ils n'arrivaient plus à avancer. Et il lui a dit, bon, bah vas-y, arrête, essaie de trouver autre chose, essaie de partir dans une autre direction. Parce qu'ils étaient partis sur une direction où c'était le mec, le héros, c'était un homme qui ressemblait d'ailleurs un petit peu au Kid de Bastion. Ils étaient partis sur un truc, un délire vraiment très Blade Runner avec l'image du mec qui était un ancien boxeur ouais. le mec un petit peu taciturne comme ça, qui part dans un délire un peu de vengeance. Et ça leur parlait peut-être pas trop. Et du coup, Gen Z a twisté un petit peu la direction en mettant donc Red, une personnage féminine, au centre, qui allait justement cette fois-ci venger son homme. C'est lui qui allait être mort, ça allait pas être l'inverse. Et en fait, c'est à ce moment-là, en créant ce concept art, que ça a vraiment galvanisé le studio et qu'ils ont enfin trouvé la direction dans laquelle ils voulaient aller avec Transistor, quoi.
Et ce qui est rigolo, c'est que du coup, pendant toute cette période, elle avait déjà travaillé énormément sur la partie création de l'univers. Hein. Vraiment, il y a tout un tas d'artwork de cette époque qui ont subsisté et qui se sont retrouvés dans le jeu final. Donc, elle avait déjà une idée en termes de visuel de à quoi allait ressembler cette espèce de monde à mi-chemin entre du cyberpunk, de la science-fiction, du film noir, puisque du coup, ce côté de vengeance et tout, on y reviendra. Ça parle beaucoup de ce genre de tonalité. Et par contre, l'artwork de Red, tel qu'il est, elle l'a fait, elle le disait, en à peu près une demi-heure, un peu moins d'une heure, elle avait fait un premier artwork. C'est devenu Red et ça y est, toute l'équipe s'est retrouvée à être motivée par cette nouvelle direction et c'est comme ça qu'ils ont pu enfin se libérer, quoi.
Ouais, c'est intéressant de voir à quoi ça tient en fait, puisqu'il y avait tout cet univers qui était déjà un petit peu en place, cette idée aussi, puisque c'était pas juste un mec qui voulait se venger, il y avait une histoire un peu d'esprit qui flottait un petit peu au-dessus d'eux, un peu à la Shaman King. Red en fait devait être un petit peu l'esprit qui lui était associé. Ils ont juste inversé un petit peu les rôles finalement en mettant juste le mec du coup dans une épée, une grosse clé USB. Et en fait ça suffit, tu vois. En fait c'est, ils étaient juste pas très motivés par l'idée de base. Ils ont inversé le truc, ils ont fait ah bah là ok, là on peut bosser dessus, donc ça tient. C'est pas quelque chose vraiment, c'est pas quelque chose qu'ils ont théorisé, tu vois, qu'ils ont couché sur papier. C'est vraiment, tu sens l'énergie créative qui s'est ravivée, quoi.
Et ça c'est quelque chose de vraiment super important à souligner pour les gens qui nous écoutent, c'est que bien souvent dans la création comme ça d'un jeu vidéo, nous on s'en rend pas forcément compte parce qu'on voit toujours le produit a posteriori, mais eux à cette époque-là ils ont rien, hein. Ils ont peut-être des prototypes, ils ont des trucs, mais ils ont pas le jeu complet. Ils peuvent évidemment pas se projeter en se disant notre jeu il sera exactement comme ça. C'est pour ça que même les plus grands studios du monde, même avec 2000 développeurs sur un seul projet, ils savent pas à quoi ça va ressembler. Donc quand pour réussir à avancer, souvent ils ont besoin comme ça d'avoir des leaders, d'avoir une direction très forte, et on l'a vu dans tout un tas de jeux récents, quand il y a pas ce genre de direction là, évidemment je pense à Anthem, où il y avait eu tout un tas d'articles sur justement le manque de vision de la part de BioWare sur ce jeu-là, forcément à l'arrivée ça donne quelque chose de bancal. Et donc quand ils ont eu ce truc-là, qui pour l'anecdote était une idée qu'ils avaient eue pour un tout autre jeu, apparemment ils en avaient parlé dans la bagnole quand ils rentraient de l'E3 ou quoi que ce soit, ça a donné l'idée de Transistor, ça a vraiment fait un déclic, et voilà, un espèce de blocage de presque 2 ans se retrouve complètement supprimé en l'espace d'une journée, quoi.
C'est marrant parce que tu vois, les jeux ont besoin de promettre des choses aux joueurs pour nous vendre un petit peu du rêve, mais même en interne, il y a aussi un moment où il y a besoin de promettre quelque chose à toute l'équipe de développement pour qu'elle se réunisse autour d'un projet. Et c'est vraiment à ça que sert le concept art, hein. C'est vraiment essayer de te vendre un petit peu un concept pour donner la tonalité, vers quoi on a envie de se diriger. C'est quelque chose qui est assez impalpable, mais il faut que ça existe parce que sinon, ouais, le jeu ne sait vraiment pas où il va, quoi. Et ce moment dans la création du jeu, il est vraiment arrivé à la moitié, parce que même plus, parce qu'ils ont commencé, donc Bastion est sorti en 2011, Transistor en 2014, donc il y a eu 3 ans de développement à peine, et c'est vraiment arrivé au bout de 18-20 mois, quoi. Donc heureusement pour eux, ils avaient quand même développé pas mal de choses en termes de gameplay, des choses qui vont subsister avec la fin, et ensuite ils ont pu justement habiller le jeu, entre guillemets, avec toutes les idées de Gen Z, et après tout ce qui va se rajouter bien sûr sur le sound design et la musique, pour arriver à façonner le jeu et à le faire sortir, pas si longtemps après, parce que bon, même s'ils avaient gagné de l'argent avec Bastion, ils pouvaient pas survivre des années et des années, hein. Y a aussi cette problématique là, quand tu rentres justement dans un studio, t'as le burn rate, hein, ils brûlent de l'argent tous les mois, et faut sortir un jeu quand même pour pouvoir de nouveau rentrer de l'argent, quoi.
Et du coup, de l'argent après Transistor, en tout cas, ils en ont rentré puisqu'ils ont fait, donc on citait, c'est toujours la même source, fin 2015, donc Bastion était à 3 millions et Transistor était à 1 million. Donc on n'a pas trop de précision sur tout ce que ça a pu leur apporter, mais on sait que en un mois ils avaient de quoi financer déjà leur 3e jeu.
Et ça c'est un truc sur lequel ils insistent effectivement dans le documentaire, parce que eux ils se disent qu'en quelques semaines ils savaient qu'en gros ils allaient pouvoir continuer de faire un jeu, et ça c'est vraiment quelque chose, je sais pas pas si les gens s'imaginent bien, mais c'est ça doit être un soulagement absolument incroyable de se dire, bon, on a passé 3 ans à un peu galérer, parce que ça a été quand même un développement assez difficile. Là, en 15 jours, 3 semaines, ils savent que c'est bon, ils peuvent continuer de faire quelque chose, et en plus, ça valide finalement toutes ces décisions très difficiles. Parce que c'est toujours la même chose, c'est ce que je disais tout à l'heure. Eux, ils peuvent se projeter en se disant, bah, notre jeu, il va ressembler à ci, il va ressembler à mi, mais à un moment donné, il va falloir se confronter à la réalité et aux ventes et au retour des joueurs. Et si ça marche pas, ben, malheureusement, ça invalide, on va dire, a posteriori, tous les choix qu'ils ont fait. Donc, je pense que ça a été pour eux une période vraiment très enrichissante en termes d'expérience, parce que, ben, ils prenaient énormément de risques. Ils passaient full indé. Ils commençaient à travailler tous ensemble. D'ailleurs, pour l'anecdote, c'est rigolo parce que c'est l'inverse de ce que nous, on est en train de vivre. Hein. D'habitude, on travaillait tous ensemble et là, on travaille à distance. Et c'est pareil, c'est un peu difficile. On a du mal à bien fonctionner avec la même dynamique que d'habitude. Et ils ont des locaux, ils ont donc embauché des gens. Enfin, vraiment, le coût du jeu vidéo a augmenté énormément pour eux. Là, savoir que c'est bon, ils peuvent continuer, bah, ça leur a donné, évidemment, je pense, une grosse bouffée d'air. Et un truc intéressant pour finir là-dessus, c'est que Transistor, il le disait, il continue de fonctionner et il fonctionne même encore mieux au fil des années. Greg, l'auteur, disait que le jeu continue de se vendre très bien, donc on imagine qu'il se vend peut-être même encore mieux qu'à l'époque, et il trouve qu'aujourd'hui, en 2000, alors le documentaire, je crois qu'il datait de 2019, au moment où il enregistrait le docu, il trouvait que les gens étaient encore plus fans, il y avait de plus en plus de gens qui faisaient des cosplays, qui faisaient des fanarts, qui faisaient de la musique, qui faisaient des reprises, qui faisaient un petit peu du contenu autour de tout ça, que au moment de sa sortie, puisque le jeu a eu un succès finalement légèrement moins violent que celui de Bastion.
Ouais, mais il a effectivement atteint un truc presque un peu culte quand même avec les années. D'ailleurs, hein, c'est pas pour rien qu'on a choisi d'en parler. Il y a des gens qui demandaient pourquoi Bastion, pourquoi pas Hades. Bon bah voilà, on a choisi Transistor parce qu'effectivement, on a perçu un petit peu de loin qu'il y avait quand même un certain amour hein, qui s'est développé autour de ce jeu. Et puis voilà, le retour critique à l'époque était quand même très positif. C'était peut-être pas autant que Bastion, mais c'était bon. Et puis voilà, forcément après ils ont pu continuer leur existence, et voilà, c'est un studio qui est toujours là aujourd'hui, qui continue à sortir des jeux. Et donc ouais, Transistor, je pense que Transistor, c'est le jeu qui a vraiment fait leur studio, en fait. C'est-à-dire qu'ils avaient la première création qui a été une vraie surprise pour eux, et puis ensuite, avec Transistor, ils ont réussi vraiment à se souder, et après, ça s'est peut-être mieux passé pour la suite.
Parce que c'est ça qui est compliqué, c'est que réussir déjà à ce que ton premier jeu ça soit un succès, alors c'est déjà un taux de probabilité extrêmement bas, mais ouais. Derrière réussir à confirmer l'essai, c'est là souvent la vraie difficulté, hein. Souvent c'est un truc qui est dit, hein, le deuxième épisode, la suite, etc. Il y a tout un tas de documentation sur les films, sur les deuxièmes livres. Le fait de réussir à faire un deuxième projet après un succès, c'est quelque chose de très complexe, et effectivement je pense qu'une fois qu'ils avaient réussi à faire Transistor, bah, ça veut dire que là Supergiant, on est quasiment assuré de les voir pendant encore quelques années. Ils ont réussi à s'installer définitivement dans le paysage
vidéoludique. Ouais. Yes,
si t'avais été en bon. Vrai, tu vois, t'aurais pu le dire au bon moment, mais voilà, voilà, je voulais te donner la perche.
On peut vraiment continuer l'épisode maintenant sur des basses scènes.
C'est bon.
Alors du coup, comme d'habitude, on va vraiment rentrer dans le jeu par son histoire. Transistor, c'est vraiment un jeu cyberpunk, un jeu de science-fiction. Le jeu se déroule dans une ville, c'est Cloudbank, hein, qu'elle s'appelle, la ville.
C'est ça, ouais.
Et cette ville, elle est un petit peu, c'est une espèce de matérialisation un petit peu numérique de la démocratie, en fait, parce que au sein de cette ville, les gens peuvent voter pour changer des choses, genre changer, je sais pas, la couleur du ciel, changer la météo. Cette ville, elle se module un petit peu en fonction des envies du peuple, et ça se fait grâce à une technologie qui s'appelle le process, qu'on imagine comme une espèce de matrice, finalement, qui est un peu, qui s'immisce un peu partout et qui va vraiment permettre à ces bouleversements de s'opérer physiquement dans la ville. Donc on est vraiment dans un truc très très cyberpunk, mais évidemment, comme dans tous les trucs cyberpunk, eh bien il y a des riches puissants qui ont envie de plus de pouvoir, hein, pour qui la démocratie c'est pas trop leur délire. Ce groupuscule, il s'appelle la Camerata, hein, c'est les Illuminati du coin, et ce groupuscule, bah, en secret, on va l'apprendre après au fur et à mesure du jeu, ont développé une technologie qui s'appelle le transistor, et ce transistor, bah, permettrait d'absorber la puissance d'individus, de personnalités qui sont influentes au sein de cette ville. Alors bon, comment ça se fait, c'est pas forcément clair. Personnellement, je l'interprète un peu à la Ghost in the Shell, en me disant qu'ils absorbent leur ghost, l'espèce d'âme en fait, qui contient toute ta personnalité, et qui peuvent la convertir dans une espèce de puissance numérique.
Parce qu'on peut aussi se poser la question du en quoi est-ce que ça les aide.
Ben voilà, il puise une force dans les grandes personnalités, voilà, il y a des super puissances et il puise dedans. Mais le problème, évidemment, c'est quand on va puiser dans une puissance, c'est jamais un bon délire, puisque ça va dérégler complètement le process et ça va faire capoter un petit peu leur plan, puisque le process va un petit peu, je sais pas... trouver une personnalité propre, hein, va se mettre en tête de tout détruire. Hein. Il grignote la ville avec des espèces de pylônes blancs et d'entités robotiques.
C'est l'histoire habituelle de l'IA qui devient folle. Hein.
Exactement.
Ça, c'est le grand classique. Tu vois, la prise de conscience, la singularité et boum, en général, l'IA se dit l'humanité, c'est pas bien, il faut la tuer.
Et tout ça finalement va se raconter à travers une histoire qui est beaucoup plus simple, Elle, c'est l'histoire de Red et de son mec. Donc Red, qui est une chanteuse, qui est donc très influente hein, dans Cloud Bank. Alors ses chansons sont certainement géniales. C'est un peu la PNL de Cloud Bank. elle est très très importante dans la culture locale. Et forcément, donc la Camerata se met en tête d'essayer d'absorber son ghost. Mais le problème, c'est qu'il n'y arrive pas puisque y a un mec qui s'interpose entre elle et l'épée qui matérialise le transistor. Et on l'apprendra, ce mec, c'est le compagnon, hein, tout simplement, de Red. Et en fait, à travers ce meurtre, il se fait planter par l'épée. Et en fait, l'épée l'absorbe. Et du coup, le jeu démarre sur le fait que Red récupère l'épée. Et à l'intérieur, il y a la personnalité de son mec qui lui parle. Et donc, elle va tout simplement décider de se venger, telle la mariée dans Kill Bill, et de tuer tous ceux qui l'ont mis dans cette situation, la fameuse Camerata.
Et puis, puisque c'est magique et qu'il ne faut pas trop se poser de questions, la voix de Red aussi a été absorbée par le transistor. Ne demandez pas pourquoi ou comment.
c'est une expérience traumatique, elle est chanteuse, voilà,
oui,
elle ne pouvait plus chanter.
Et du coup, elle fredonne.
C'était sûrement ça.
C'est un peu étrange, parce qu'on aura l'occasion de le redire, mais voilà, dès que tu commences à vraiment gratter un peu la surface de cette histoire, ça tient pas vraiment debout. Malheureusement, il y a pas mal de choses qui sont assez incohérentes. Tu vois, il n'y a pas d'explication sur comment elle a perdu sa voix, ni quoi que ce soit. L'essentiel de l'histoire, de toute façon, va être raconté de manière complètement optionnelle. On peut totalement passer à côté. Donc c'est vrai que c'est plus un univers, une atmosphère, je pense qu'ils ont voulu retranscrire, que de nous raconter vraiment une histoire.
Il y a un récit, finalement, qui est assez simple. Hein. C'est vraiment donc une histoire de vengeance. On va... se mettre en tête de tuer les membres de la Camerata. On va tuer la première, donc qui est Sybille, qui est vraiment le premier boss du jeu, qui vient conclure cette fameuse First Hour expérience, comme on en parle souvent dans l'émission. Ensuite, on va se rendre compte qu'il y a deux autres membres qui se sont suicidés, parce qu'ils ils se sont rendus compte de leur erreur, puisque le process est vraiment en train de tout ravager. Et puis, il y en a un dernier qui sera vraiment le boss final, le dernier membre de la Camerata, qui, lui, continue dans son obsession du pouvoir. Hein. Je crois que c'est à peu près ça, le délire. Et au final, Red va sortir vainqueuse, va sortir victorieuse du combat. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle fait non pas le choix de sauver la ville avec tout le pouvoir qu'elle a accumulé dans le transistor. Elle va simplement, elle aussi, se planter avec l'épée pour rejoindre son amoureux dans cette espèce d'entité virtuelle et pouvoir continuer à vivre leur relation. Et c'est vrai que ça peut être un peu une surprise parce que tout au long du jeu, c'est le mec qui nous raconte l'histoire, donc c'est vraiment le transistor, l'épée qui nous raconte l'histoire, et à la fin il y a ce petit twist là, puisque c'est Red qui prend sa propre décision. Quoi.
Oui, c'est vraiment qu'à la fin qu'on se rend compte à quel point c'est une histoire de vengeance et d'amour, puisque au tout début on sait pas forcément quelle relation il y a entre lui et elle, puisque dès le début il faut aussi rappeler, on ne sait pas ce qui s'est passé, en fait on ne sait pas qui a cette notion de Camerata, qu'ils ont tué ce mec là qui s'est interposé entre Red et eux. Donc voilà, c'est des petits morceaux qu'on va un petit peu recoller à mesure qu'ils veulent bien nous les donner. Et comme je disais, c'est vraiment la fin, au moment où elle se suicide entre guillemets, parce que ça a l'imagerie du suicide, mais comme tu le disais, est-ce qu'ils vont dans un autre monde, est-ce qu'ils se retrouvent, voilà, on sait pas trop, on sait même pas si Cloud Bank est matériel ou virtuel, donc de toute façon voilà, c'est des questionnements, arrêtez de poser des questions, c'est agaçant à la fin. Ouais, il y a cet aspect où c'est quand elle se suicide que tu dis c'est la seule chose qui la retenait en fait à la vie, c'était vraiment de vouloir tuer tous les membres de la Camerata. Et c'est tout ce qu'il lui reste à faire. Il y a un petit indice quand même au moment dans le jeu où elle va à son appartement et elle le quitte. Et là, t'as la voix du transistor qui lui dit « Ah, mais t'as fermé derrière toi, comment tu vas faire pour rentrer ?» Et là, il fait « Oh
oui, !»
Tu vois, il se rend compte qu'en fait, elle a pas prévu de revenir. Mais bref, c'est quand même quelque chose dont on va se rendre compte au fur et à mesure.
Oui, c'est vraiment un jeu dans lequel la fin donne un éclairage à tout ce qui s'est passé et qui nous permet un peu de vraiment comprendre cette histoire. Surtout que, voilà, on parle un petit peu des zones de flou. Tout le reste de l'univers, il est, bon, développé effectivement esthétiquement, mais il est surtout développé en fait à travers tous les pouvoirs qu'on récolte dans le jeu. Alors au début du jeu, on les récolte via vraiment le mécanisme du transistor, hein, qui est d'absorber des personnes. Après, on les récolte en gagnant des niveaux. Et finalement, c'est vraiment en utilisant justement tous les petits pouvoirs qu'absorbe le transistor, hein, qui sont vraiment les éléments de gameplay, tous les petits pouvoirs, oui. Et c'est comme ça qu'on va vraiment pouvoir en apprendre un peu plus sur ce monde.
Ouais, on l'apprend en fait pour expliquer un petit peu, quand on équipe un pouvoir, ça nous donne accès à plus de pages en fait dans une espèce de codex qui nous donne des infos du coup sur les personnages. On peut apprendre un petit peu des soit en apprendre plus sur l'histoire principale ou un petit peu sur des sous-histoires. Par exemple, juste là, pour l'anecdote, la fameuse Sibyl, qui est la première boss, on apprend qu'elle était amoureuse de façon un peu toxique envers Red, qu'elle était vraiment fan d'elle, et qu'en fait, son plan depuis le départ, c'était de tuer l'amant de Red, en fait, de servir de la Camerata pour tuer l'amant de Red. Mais voilà, tout, rien ne s'est passé comme prévu pour Kikong, et c'est d'ailleurs quelque chose qu'on entend un petit peu dans les paroles de la musique quand on la combat. Donc il y a des éléments de lore, tu vois, qui sont disséminés de différentes manières.
En fait, ce qui est intéressant avec la narration du jeu, c'est qu'il y a effectivement ce côté double niveau où la voix de l'épée va nous faire croire qu'il se passe quelque chose, alors qu'en réalité, l'histoire telle que le personnage principal la vit, elle est totalement différente. Et c'est vraiment qu'à la toute fin qu'on se rend compte que Red, en fait, elle sent. En fait, c'est assez étrange parce qu'on pourrait presque imaginer qu'il y a une sorte de relation étrange où elle est triste parce que son mec s'est fait défoncer, et en fait, il essaye de l'emmener dans une direction qu'elle ne veut pas du tout faire. Elle a décidé qu'elle allait se venger, et elle est triste, et à la fin, tout ce qu'elle essaye de faire. D'ailleurs, la séquence de fin est assez bien foutue là-dessus. Elle se rassoit à côté de son cadavre, puisque évidemment, personne n'est venu le ramasser. Hein. C'est comme ça dans le futur. Et elle se jette. Alors évidemment, la séquence n'est pas montrée, mais elle s'enfonce l'épée elle-même. Et la toute dernière image du jeu, c'est une espèce de ferme qu'on voit avec un ciel bleu, un côté très naturel, très très ancré dans le réel, où on les voit qui se retrouvent tous les deux. On l'entend Red qui parle, comme si elle avait réussi à retrouver sa voix. Et c'est de là, évidemment, qu'on pourra lancer tout un tas de spéculations sur le fait que
Oui, se
peut-être,
demander si
voilà.
voilà le Cloud Bane c'était pas un univers virtuel dans lequel ils étaient, ou tu sais, vraiment à la Inception où il y a plusieurs strates d'univers virtuel sur lesquels ils sont branchés, c'est l'Oasis, je ne sais pas, sortez vos meilleures références cyberpunk. Mais c'est vrai que le jeu ne nous donne pas beaucoup de réponses là-dessus, et je pense que c'est justement parce qu'il se focalise vraiment sur cette relation amoureuse. Et c'est vrai que moi j'avais trouvé ça assez intéressant, le fait que tu vois vraiment le mec tout au long du jeu, il nous fasse un peu croire, bah voilà, qu'on va les venger, qu'on va récupérer la puissance. À la fin, tu te dis, tu sais, tu peux chanter et ça fait réapparaître un petit peu la ville, ça combat le process, et tu dis, ah bah ça y est, on va pouvoir sauver le monde. Et non, en fait, Red, elle en a rien à foutre, elle veut juste être avec son mec, alors que lui, finalement, il a déjà accepté de ne plus faire partie de ce monde de manière physique, et du coup, lui, il se projette de manière différente, donc il y a une espèce comment dire, de dichotomie entre les envies des deux, et c'est ça ce qui permet, je trouve, à la fin d'être intéressante et surprenante, quoi.
Et puis il y a un petit peu cette sous-thématique du choix, parce que comme on le disait, il y avait des votes où toute la population pouvait voter pour moduler un petit peu la ville en fonction de leur goût. La Camerata s'opposait à ça en mode, bah, de toute façon, si la ville change toujours, c'est-à-dire qu'il n'y a pas il n'y a pas de changement, il n'y a pas de vrai choix en fait. Et au moment où Red, en fait, elle a les pleins pouvoirs, elle pourrait choisir ce qu'elle veut, bah, en fait, elle choisit d'abandonner ses pouvoirs pour se sacrifier finalement. Et ce sacrifice, il donne aussi pas une seconde lecture, j'irai pas jusque-là, mais il donne un regard différent en fait. Enfin, moi, il m'a donné un regard un petit peu différent sur toute l'aventure, où je l'imagine beaucoup plus déterminé en fait que ce que je voyais, où avant c'était juste un peu, bah, jeu vidéo, tu fais ce que t'as à faire, tu fonces, et puis voilà, tu tues des gens, et puis c'était la voix du Transistor qui voulait un petit peu se venger aussi, hein, c'est lui qui voulait tuer la Camerata. Et là, j'imagine elle beaucoup plus vénère en fait quand je vois tout ce qu'elle a fait, que c'était la seule chose qui la retenait à la vie. Je l'imagine vraiment, tu sais, les sourcils froncés, les mains qui serrent sur l'épée, tu vois, et qui les défoncent les uns après les autres. Donc c'était assez intéressant de finir sur une note comme
C'est
ça.
vrai que ça lui donne une force de volonté bien plus puissante en fait à la fin, le fait qu'elle prenne vraiment sa propre décision, c'est ça qui est intéressant, et qui en fait un personnage féminin fort. Et je pense que c'était un des trucs d'ailleurs qui a permis à Transistor de briller en 2014. Alors aujourd'hui c'est effectivement un peu plus dans la mouvance, mais voilà, en 2014 je pense que c'est ça qui a parlé à beaucoup de monde déjà, quoi.
Et en plus, ça reprenait tout un tas de choix esthétiques et même de termes de narration qu'on connaît dans les films. Je parlais du film noir, mais ce côté comme ça, vengeance, où elle met son imper, tu sais, elle remet le manteau de son mec et elle décide d'aller se venger, c'est le dernier objet qu'elle garde avec elle. Ça reprend aussi un trope, hein, parce que t'as cité Kill Bill, mais des films comme ça, où il y a une femme qui va se venger, c'est devenu quelque chose d'assez classique dans la série B au cinéma, et c'est quelque chose qu'on revoit souvent. Dans le jeu vidéo, en fait, en 2014 encore plus, c'était pour le coup très original. Et je pense qu'ils ont vraiment réussi à surprendre un peu leur monde avec ce personnage-là, qui en plus trouve en réalité dans les dernières minutes du jeu toute sa personnalité et on la comprend un peu plus. Donc c'était très osé parce que ça sous-entend que les gens ils doivent aller au bout de l'aventure pour le voir.
Parce qu'au début tu n'as pas ce lien que tu as avec elle, tu la comprends un peu moins, il y a vraiment juste le narrateur, le transistor qui t'accroche, mais tu te sens peut-être un petit peu en décalage avec elle. Et c'était d'ailleurs pour ça, tu vois, à l'époque j'avais joué une heure et demie, j'avais un peu moins accroché. Et c'est vrai qu'à la fin, effectivement, ça mérite de le finir parce que ça lui donne une teinte différente et ça lui donne de la personnalité, ouais.
Et ça, du coup, ça te donne aussi comme ça un vrai sentiment de proximité, puisque du coup, ça en fait un personnage qui est beaucoup moins héroïque, qui est beaucoup plus humain finalement, parce que ce sentiment de vengeance, on pourrait tous le ressentir. Et moi, je sais pas si je serais prêt à sacrifier mes pouvoirs pour sauver une ville ou quoi que ce soit. Tu vois, si j'étais vraiment en mode vengeance, peut-être que j'aurais une réaction finalement beaucoup plus proche de la sienne. Et je trouvais que ça redescendait un peu le jeu de cette espèce de délire un peu héroïque, parce qu'en plus, il y a tout un passage épique où tu vas combattre, la
spine,
là,
ouais, l'espèce de monstre. Qui est une incarnation un petit peu du process.
Ça part vraiment dans des directions très épiques et finalement ça remet le jeu à une échelle beaucoup plus humaine, beaucoup plus dramatique de cette tragédie comme ça qui a séparé les deux amoureux, et à la fin hop ils arrivent à se rejoindre grâce au transistor. Mais moi j'ai bien aimé, tu vois, tous ces petits twists. C'est vrai que le jeu il prend quand même un peu, c'est rare hein, finalement qu'on dise, alors que ça s'appelle fin du game comme émission, c'est rare qu'on rappelle que la fin des fois du jeu permet d'apporter quelque chose. Mais finalement, je pense que Transistor, en plus de cette petite twist-là, c'est surtout, comme l'histoire elle est un peu incohérente, c'est plutôt le mood, tu vois, la partie esthétique, vraiment tout le côté musical, etc. C'est plus ça, en fait, qu'on va retenir et qui marque, en fait, dès les premières minutes, puisque visuellement, même encore aujourd'hui, je trouve que c'est un jeu qui ne ressemble finalement à quasiment rien qu'on connaît.
Bah, c'est vrai que déjà, t'as déjà vraiment cette esthétique, je trouve, qui me fait vraiment beaucoup penser à des comics, vraiment la patte artistique de Gen Z. Moi, ça me fait penser beaucoup à Saga ou des comics un petit peu new age, entre guillemets, qui sont assez contemporains. Et c'est vrai que rien que ça, son choix des couleurs, son trait qu'elle a sur ses personnages principaux, enfin, ça m'étonne pas, tu vois, que son concept art ait réussi à galvaniser le truc, parce que voilà, quand on voit le résultat du jeu, effectivement, ça lui donne déjà, rien que ça, beaucoup de personnalité, et ouais, ce personnage qui tient cette grande épée, il y a une espèce en plus de... comment dire, de gros différentiels entre voilà, ce personnage qui apparaît comme assez fragile et qui tient cette grosse épée. Je trouve que ça lui donne déjà tout de suite un charisme particulier au jeu, quoi.
Surtout qu'en plus, même en termes de choix esthétique pur, elle est habillée en fait, parce qu'elle était en représentation, donc elle avait sa robe de soirée, etc. Elle se balade avec son manteau, donc ça crée déjà un petit décalage. Et tout au long du jeu, ça c'est un petit détail, mais ça fait partie des petits effets sympas. À chaque fois, comme elle traîne l'épée derrière elle, parce qu'elle peut pas la soulever en permanence, t'as tout le temps ces espèces de petites lignes numériques là qui se mettent, qui permettent d'exprimer le fait que ça frotte. Et du coup, c'est vrai que ça lui donne tout de suite vraiment comme ça toute une personnalité qu'on voit pas forcément, parce que d'habitude c'est Cloud, tu vois, c'est genre elle porte l'épée, elle fait 10 fois sa taille,
oui,
mais elle la
oui,
porte
oui,
à bout de bras
ça.
Et elle la fait mouliner comme ça, comme si c'était de la mousse, quoi. Que là, on sent le poids du truc en permanence qu'elle balance, quoi.
Et puis après, bah, y a effectivement, vraiment, moi je pense que le plus important quand même dans le jeu, c'est le son, hein, c'est vraiment cette musique hein, de Darren Korb qui arrive à nous accompagner tout du long, vraiment l'ouverture, hein, le jeu il s'ouvre, c'est Old Friends le morceau sur lequel le jeu il s'ouvre. Tout de suite, ça te met dans un monde un peu mélancolique où tu traînes cette espèce d'épée. Et on sent déjà un petit peu cette petite arme, tu vois, cet air un petit peu revanchard qu'il y a dans la mélodie. Et je trouve que ça te met tout le temps, tout de suite dedans. Et tout au long du jeu, on va retrouver comme ça différents morceaux qui vont vraiment nous accompagner dans nos massacres. Hein, parce que concrètement, le jeu, il suit par contre une structure assez simple où voilà, on enchaîne vraiment les combats, quoi.
Oui, c'est vrai que pour la majeure partie du jeu, c'est quand même juste un enchaînement d'arènes. Hein. T'arrives, boum, il y a les trucs blancs qui apparaissent, les ennemis apparaissent, tu dois les combattre. Alors heureusement, il y a quand même des petits trucs qui brisent un peu cette monotonie. Il y a tout un tas de passages qui restent en tout cas en tête. Tous les passages où elle va prendre un véhicule, où elle va se balader, on va la voir traverser la ville. Des fois, il y a des petites images qui apparaissent en surimpression. C'est vrai que moi, les passages où elle est en moto, où elle est en bateau, ouais, ça donne encore une fois encore plus ce mood et cette ambiance très urbaine qu'on ressent. Et évidemment, la voix de Logan Cunningham là-dessus, elle est parfaite, puisque bah, il a une voix très chaleureuse, tu vois, c'est vraiment quelque chose, la façon dont en plus la voix est mixée, comme il est censé sortir d'une épée, ça lui donne tout un sens qu'on n'a pas en plus. Et en permanence, le son t'immerge en fait dans cet univers de Transistor. Et ce que je trouve très intéressant, c'est qu'ils ont passé tellement de temps à essayer de pas refaire Bastion qu'en réalité, ils ont tout simplement trouvé leur recette, tu vois, à travers ça, puisqu'on retrouve finalement les mêmes points importants par rapport à Bastion, avec le côté esthétique très forte, très mise en avant du travail artistique de Gen Z, et l'omniprésence de la musique, le travail, on en reparlera sûrement, de Darren Korb, qui ne s'occupe pas que de la musique, hein, il fait beaucoup aussi sur la partie sound design, et la voix du narrateur qui est en permanence là. Et dans tout leur jeu par la suite, que ce soit Pyre ou Hades, bah, c'est la même recette en quelque sorte.
Est-ce que dans Bastion, il y avait déjà ce côté très intime qu'il y a avec le narrateur? C'était pas forcément la même narration, parce que je trouve que dans Transistor, ce qui marche beaucoup, c'est que tu te sens très proche de ce mec qui te parle, tu sais, il a cette façon un peu de susurrer les choses, alors c'est pas de l'ASMR non plus, mais il te parle quand même d'un... Il y a vraiment une espèce d'intimité par son interprétation qui est vraiment intéressante, et tu sens qu'il y a une espèce de relation qui peut se nouer. Est-ce que c'était déjà le cas dans Bastion, ou c'était peut-être plus narrateur, omniscient, troisième personne,
hein? Alors c'est plus ça, mais il y avait quand même déjà des indices qu'ils allaient quand même dans cette direction, c'est-à-dire que comme l'histoire de Bastion était racontée au fur et à mesure que tu la vivais, quand tu prenais par exemple un chemin qui amenait à un labyrinthe, il allait faire une petite remarque, il allait faire un petit truc, ça... il y avait tout le temps des petits twists comme ça au niveau de la façon dont il parlait, où c'était pas juste un narrateur, c'était aussi quelqu'un qui parlait un petit peu au kid, mais par contre, étant donné qu'ils avaient une distance entre les deux, parce qu'ils n'avaient pas de relation amoureuse, il n'y avait pas effectivement, comme tu le dis, cette espèce d'intimité qu'on ressent en permanence, et ce qu'on oublie, c'est que Logan, en fait, enfin le doubleur, souvent le Transistor, il ne parle pas à nous, il parle à Red, en réalité. Et du coup, c'est rigolo, parce que bah, toi, dans les oreilles, comme tu dis, c'est tout chaleureux, c'est tout sympa, et tu sures des trucs à l'oreille, et tu dis, c'est quand même sympa.
Non, mais il y a un
vois.
Côté un peu presque voyeurisme, alors c'est pas du voyeurisme, mais de l'auditeurisme, je ne sais pas. Mais oui, t'as l'impression vraiment de pouvoir aller très proche dans cette espèce d'intimité, et je trouve que ça, c'est une vraie réussite, et vraiment, le jeu profite énormément de toute cette patte esthétique. Parce que sur le reste, en fait, sur vraiment la proposition ludique, pour rentrer beaucoup plus dans le gameplay, là, il y a des intentions, mais tout n'est pas forcément exécuté aussi bien. Je pense déjà que tu l'as dit, c'est important vraiment de souligner cette structure vraiment en arène. Moi, ça m'a assez surpris, parce que t'as ce côté très mood qui se met en place, donc tu vois, il y a un truc un peu assez lent, et finalement, le jeu a presque des allures de beat'em all dans sa structure, parce que c'est vraiment des enchaînements d'arènes avec des ennemis, des vagues qui se répètent, quoi.
Et dès le début, ils ont eu cette volonté de faire un jeu, une espèce de mix entre du tour par tour et de l'action RPG. Alors peut-être que c'est aussi leur passé un petit peu de Command & Conquer, ou alors c'est en temps réel Command & Conquer, je pense, mais il y a ce côté un petit peu tactique, tu vois, en tout cas qui voulait insuffler à Transistor, puisque pour expliquer un peu, c'est vrai qu'on s'est beaucoup attardé sur l'univers, sur l'histoire, mais il y a du gameplay, il y a du vrai jeu entre guillemets.
Il y a du vrai jeu dans Transistor.
On va pouvoir taper des ennemis, puisque on l'a dit, on récupère des pouvoirs un petit peu au début sur des cadavres, en matrixant un petit peu ce qui passe, et puis après, en gagnant des niveaux, on gagne différentes capacités, que ce soit convertir l'IA pour qu'elle devienne notre alliée, on peut donner des coups avec notre épée, tirer des rayons laser, bon bref, il y a plein de différents pouvoirs.
Oui, il y a des coups à distance, il y a des coups proches, tu peux devenir invisible, tu peux créer des explosions, tu peux lancer des petits objets qui vont ricocher, tu peux évidemment invoquer des...
Ils sont trop forts.
Voilà. Et chaque pouvoir peut devenir un sous-pouvoir de l'autre, c'est-à-dire ça combine un petit peu les deux, où il y en a un qui va être le principal, on va dire l'actif, et quand on en met un autre, ça devient le passif, et du coup, ces deux pouvoirs un petit peu combinés, donc par exemple, avant le rayon laser, si on met le passif de quelque chose qui tirait trois rayons laser, bah du coup, ce rayon se divise en fait en différents trucs. Bon, c'est pas très clair, mais par exemple, quand on pouvait invoquer un chien, et si on met le pouvoir de division dessous, on invoque deux chiens. Voilà, il y a un petit peu ça à prendre en compte.
Ou tout simplement le fait fait, par exemple, le pouvoir qui permet de vraiment convertir des alliés, bah, si tu l'associes, si tu le mets en passif sous un autre pouvoir, eh bien, c'est ce pouvoir qui va convertir les alliés. Alors, bien sûr, il y a un trade, hein, ça ne durera pas aussi longtemps que si tu l'utilisais en pouvoir actif. Mais voilà, en fait, tout le jeu se repose sur ces espèces de combinaisons. Je crois que des pouvoirs, il y en a 16. Et donc, ils peuvent être utilisés en actif, en passif et aussi en...
En vrai passif. En fait, on a utilisé passif.
Voilà, en passif sur le personnage. C'est-à-dire que ça va augmenter alors soit ta vitesse de déplacement, soit ta vitesse de récupération après que tu aies usé un des fameux turns, puisque donc il y a ce mix entre temps réel et temps
réel. Oui, parce que voilà, il y a donc en temps réel, on va utiliser un petit peu, on peut utiliser ces pouvoirs-là un petit peu à volonté et qui ont éventuellement des cooldowns, mais il y a donc ce fameux tour par tour, le fameux turn, où là on passe un peu en mode bullet time, c'est-à-dire on appuie sur un bouton et boum, le jeu se fige. Pendant que le jeu se fige, d'ailleurs, la musique change. On entend juste la voix de Red fredonner un peu la mélodie de la musique qu'il y avait. C'est une phase très
cool. C'est PNL.
Exactement. Toujours, c'est parti pour le bingo. Et pendant cette phase, en fait, on va pouvoir. En fait, c'est un petit peu notre tour, entre guillemets, d'attaquer. Ouais. Et on a une barre, en fait. Qui est consommé à chaque fois qu'on utilise une de nos capacités, et donc on utilise un petit peu ce qu'on veut, sachant qu'il y a des choses, si on se met dans le dos des ennemis, ça leur fait plus de dégâts, enfin bref, voilà, on prend un petit peu
en
tout
fait,
ça en
fait. En fait, tu vas planifier une série d'actions que tu vas faire, donc tu vas utiliser un pouvoir, ensuite te déplacer pour aller te mettre dans le dos d'un ennemi, utiliser un autre pouvoir, renchaîner sur un autre pouvoir, et ensuite, par exemple, te tirer. Donc tu as toute une petite séquence de possibilités, et ensuite, tu rappuies sur le bouton, et bim, Red va vraiment exécuter ça en mode fast, vraiment ultra rapide, c'est-à-dire que les ennemis, eux, se déplacent tout doucement, mais ensuite, le coût de cette opération, c'est que pendant un moment, tu vas quasiment rien pouvoir utiliser. Alors, il y a certains pouvoirs, tu peux les débloquer, les mettre en passif, qui justement te permettront de les utiliser pendant cette phase de recovery, mais voilà, t'as une espèce de temps mort, en fait, après le jeu, quoi.
Et c'est pour ça, en fait, qu'ils parlaient d'une idée de tour par tour, puisque dans leur logique, ils voulaient pas faire du pur tour par tour, mais ils voulaient qu'en gros, cette période de pause dans laquelle on ne peut que se déplacer et quasiment plus attaquer, soit le moment où les ennemis attaquent. Mmh. Parce que comme tu l'as dit, ce qui est un peu surprenant, c'est que quand tu utilises toi les attaques en temps réel, bah, ça prend un certain temps, mais quand tu les as programmées grâce au turn, tu les déclenches toutes extrêmement rapidement. Et c'est bien souvent comme ça, d'ailleurs, que tu vas pouvoir prendre l'ascendant, parce que si tu attaquais plusieurs fois l'ennemi en essayant de rester dans son dos, ça marcherait pas, mais comme là, tu profites de l'effet de temps ralenti, bah en fait tu peux l'attaquer 4-5 fois d'affilée dans son dos, lui faire énormément de dégâts et réussir à le tuer. C'est vraiment un choix de gameplay qui est très en phase avec leur époque, puisque cette idée de planification, c'était quelque chose qu'on voyait dans pas mal de petits jeux et c'était quelque chose qu'on avait assez souvent, mais bizarrement ils auraient peut-être pu embrasser le côté tour par tour pur et dur, je sais pas forcément, mais c'est vrai que, en fait, moi je me base plus sur ce qu'on a vu dans le Discord. Il y a quand même pas mal de gens qui nous ont fait remarquer que pour eux le gameplay était un peu gênant, et c'est vrai que ce mix est pas forcément évident. La première fois que tu découvres le mode turn, c'est pas quelque chose qui te vient aussi naturellement que de l'action ou du tour par tour. Comme c'est un truc un peu à mi-chemin entre les deux, c'est vrai que c'est peut-être un peu plus difficile à aborder.
Et puis surtout que ce qui est surprenant, en tout cas moi, ce qui m'a surpris au début, c'est que tu ne comprends pas tout de suite quel est vraiment l'intérêt plus que l'autre. C'est-à-dire, est-ce que tu te dis à quel moment je vais devoir utiliser le turn ? Est-ce que ne pas utiliser le turn, ça a un vrai avantage ? Moi, c'est vrai que j'ai vraiment fait quasiment tout le jeu qu'avec le turn. Je me suis très 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 peu battu en temps réel. Et du coup, je vois pas trop l'intérêt d'avoir gardé ça, tu vois. Alors effectivement, il y a pendant les temps de recovery où je pouvais utiliser un pouvoir, là, ça avait un intérêt. Mais c'est tout, quoi. J'avais pas vraiment l'impression de bénéficier du côté temps réel, parce que vraiment, le turn, c'est vraiment là que tu prends l'ascendant. Et même, par exemple, le boss final, qui est un duel, justement, de turn, puisque, littéralement, l'adversaire, lui aussi, a une espèce de transistor, et lui aussi, il peut figer le temps et te mettre tous ses coups dans la tronche. C'est vraiment un duel là-dessus, et ça n'a pas de sens d'utiliser le temps réel, quoi.
Bah, eux, ils le disent, ils voulaient mettre, en fait, dans l'action RPG, le drama du tour par tour, sauf que j'ai pas vraiment, moi, cette impression, parce que le drama du tour par tour, c'est en mode, bon, déjà, t'as peut-être un lancer de dés, tu vois, un petit peu, la XCOM ou la Darkest Dungeon, où tu espères un petit peu que tes coups vont porter, et si ça rate, tu vois, tu dis, ah merde, du coup, ça, c'est son tour à lui, et là, il va me défoncer. Là, le problème, c'est que dans le tour par tour, c'est dans le contrat, tu vois, c'est que, il y a un moment, c'est ton tour, il y a un moment, c'est le tour de l'autre. Là, je trouve qu'il y a une grosse frustration pendant que ta barre se régénère, puisque le jeu ne s'arrête pas, hein, nous, on continue de courir, c'est-à-dire qu'on on se prend des coups pendant ce temps, on essaie de se planquer, on est très vulnérable, mais comme tu l'as dit, il y a des pouvoirs qui permettent d'atténuer ça. Alors il y a plein de façons de pas contourner, mais d'atténuer un petit peu la phase où on est vulnérable. Comme tu disais, on peut devenir invisible à la fin de notre turn. Si on active le pouvoir d'invisibilité, bah déjà, ça nous planque un petit peu pendant quelques temps. Il y a le fait de convertir les ennemis en alliés. Ça veut dire que du coup, bah, pendant notre tour, bah, on a quand même toujours des gens dans nos rangs qui vont taper. On peut convertir aussi des shields ou des ennemis qui sont censés soigner leurs alliés. Là, ils nous soignent, nous. Donc, et tout ça, du coup, mais ça veut dire que, est-ce que c'est vraiment du tour par tour, du coup? Parce que ça veut dire que tu mets le tour de l'ennemi, entre guillemets, en ta faveur, ou en tout cas, disons que c'est le prolongement de ton tour en pleine action. Du coup, c'est toujours un petit peu ton tour, quoi.
Est-ce que c'est pas ça devient un problème d'équilibrage, en fait, parce que justement, une fois que t'as trouvé les bonnes combinaisons, et je pense qu'on peut venir justement à ce fait-là, une fois que t'as trouvé les bonnes combinaisons, bah tu peux devenir très très puissant dans le jeu. Moi, je sais qu'à la fin du jeu, j'ai vraiment roulé avec le pouvoir qui permet d'affaiblir les ennemis. Si tu te mets dans leur dos, les derniers ennemis, les plus forts, je les one-shotais parce que j'enchaînais trois fois l'affaiblissement et l'explosion, et ça les one-shotait. Et du coup, c'est vrai que tu peux te retrouver à trouver des bonnes techniques qui vont justement faire que t'es pas du tour par tour, c'est limite tout le temps ton tour, quoi.
Et justement, c'est là-dessus que je voulais rebondir, c'est l'idée qu'en fait, on n'est pas... Au final, ils ont essayé de faire du tour par tour, mais en réalité, ils ont fait plus un jeu de puzzle où le but, ça va être de trouver la bonne combinaison, tu vois. Une fois que t'as trouvé la solution qui fonctionne, tu vas l'appliquer, et dans ce cas-là, en fait, tu vas essayer de supprimer, comme tu le dis, cette notion de tour, c'est-à-dire que tu vas tout faire. Moi, par exemple, comme j'essayais d'optimiser au maximum, je voulais faire en sorte de ne pas me retrouver dans le moment où c'était à eux de jouer et d'essayer de tuer tout le monde dès le premier tour, parce que c'est souvent très possible. En fait, à partir de la moitié du jeu, tu te rends compte, on en reparlera grâce au niveau de la plage, que t'as des combinaisons tellement fortes que tu peux en réalité te débarrasser des ennemis en un tour ou peut-être même deux tours grand max et éviter en fait ce truc-là. Donc un de leurs objectifs et qui est en fait ce qu'on ressent dans Transistor, c'est qu'ils essayaient justement de nous faire comme ça expérimenter pour qu'on trouve ces combinaisons et qu'on se force un petit peu en permanence à changer. Mais
c'est justement ça le problème, c'est-à-dire que oui, il y avait cette intention de nous faire utiliser des combinaisons, mais il y avait aussi une intention, c'est qu'on ne tombe pas justement dans cette routine de l'utilisation des pouvoirs. Dans le docunoclip, ils en parlent, hein, c'est eat your vegetable design, donc mange tes légumes game design. Et donc l'idée, c'était justement de ne pas nous faire tomber dans toujours cette même utilisation. Et là, par contre, le jeu tombe vraiment quand même dans ce piège, parce que moi, je sais pas comment les gens sont sortis. Moi, j'ai pas eu trop de difficultés quand même dans le jeu, parce que quelle est la punition? C'est qu'en fait, quand tu meurs, tu ne meurs pas vraiment, mais tu perds ton plus gros pouvoir, et ce pouvoir, il va falloir attendre plusieurs points d'accès, qui sont les checkpoints, hein, plusieurs checkpoints avant de pouvoir le récupérer. Et du coup, l'idée, c'est de te supprimer ton plus gros pouvoir pour te forcer à explorer d'autres capacités que tu as et à changer un peu ton build. Et le souci, c'est que si tu trouves un build qui marche, le jeu, s'il n'arrive pas à te battre, tu restes toujours avec le même build, tout simplement, quoi.
Et puis l'idée, elle est intéressante, hein. De toute façon, te sortir de ta zone de confort, voilà, c'est toujours une intention d'homme. De toute façon, là on est un petit peu dans notre partie, il y a des intentions intéressantes, mais leur réalisation, elle est un petit peu plus bancale. Donc on l'a dit avec le tour, cette volonté de faire du tour par tour, et là cette volonté de nous sortir de notre zone de confort, il y a aussi le fait que ça t'arrive en plein combat. Donc déjà, c'est vraiment une perte, tu vois. T'es pas là, on te sort pas de ta zone de confort, on t'ampute, tu vois, d'un bout de ta zone de confort sur le coup. Et effectivement, d'ici le moment que tu le récupères, un des autres soucis, c'est que ça te supprime aussi tes sous-pouvoirs, les pouvoirs qui étaient associés à ce pouvoir le plus coûteux. C'est-à-dire que tu ne peux même pas les équiper, du coup, ceux-là en principaux, ce qui aurait pu te sortir un petit peu de ta zone de confort. Donc ouais, sur le coup, quand tu le perds, tu vois, t'es pas dans un mood où tu dis « Ah bah tiens, je vais en profiter pour expérimenter ». Déjà, ça, voilà, c'est la merde quand ça t'arrive, c'est un petit peu compliqué. Et en plus, si ça t'arrive au début du jeu, t'as pas 36 pouvoirs. En général, tu peux avoir tous tes pouvoirs à disposition, et en fait, tu vas pas pouvoir en changer, puisque t'en as pas plus, en fait. Donc faut attendre peut-être, je sais pas, le tiers ou la moitié du jeu, avant que cette intention, déjà, elle puisse vraiment marcher.
Exactement, la punition au début est beaucoup plus douloureuse, parce que si tu perds vraiment un de tes deux pouvoirs offensifs, bah, il t'en reste plus qu'un et vraiment ça ne va pas te pousser à en utiliser d'autres puisque tu n'en as pas d'autres, quoi.
Ouais, au contraire, ça va plutôt te pousser à essayer de revenir en arrière et de Exactement. Mieux gérer la situation et de retomber dans cette logique d'optimisation où tu vas essayer donc de se sortir sans, tu vois, en ayant perdu le moins de vie possible. Et donc en fait, ce qui est étrange, c'est qu'ils ont créé une punition qui est tellement forte que tu vas naturellement, on va dire, être poussé à essayer d'optimiser. Et ce faisant, ben en fait, ça va aller à l'encontre de ce qu'ils voulaient. C'est que comme tu vas chercher à optimiser, tu vas pas chercher à optimiser en changeant toutes les deux secondes. Tu vas chercher à optimiser en trouvant la solution qui fonctionne, la martingale qui te permet de te sortir de toutes les situations. Et là, une fois que tu l'as, tu déroules le jeu. Et c'est vrai que il y a des gens, hein, évidemment, tu peux trouver des vidéos sur le net où ils vont faire des combos complètement improbables qui font des millions et des millions de dégâts. Mais dans les faits, toi, comme le jeu, il te met jamais face à une réelle difficulté, même dans les combats de boss, t'essayes de simplement sauvegarder ton truc. Moi, je sais que j'en étais arrivé à prendre un pouvoir qui coûtait volontairement très cher pour le perdre. Parce que je m'en foutais, tu vois, j'en étais au stade où...
Oui, tu peux fonctionner avec trois pouvoirs, enfin, moi je sais qu'il y a une partie du jeu où j'ai roulé, où à un moment j'en ai perdu un, et j'ai fait, bah je m'en fous, je l'utilise pas, parce que limite j'y pensais pas plus que ça, parce que ma combinaison de base fonctionnait bien. Et ouais, c'est vrai que c'est vraiment dommage, parce qu'il y a une discordance, en fait, entre ce qu'ils veulent faire pour le bien du jeu, et ce que toi, t'as l'intention de faire en tant que joueur pour pouvoir progresser. Et le souci, c'est que, pour moi, c'est même pas un problème de difficulté, c'est un problème de situation. C'est-à-dire que le jeu n'arrive pas tout au long de son évolution, comme c'est toujours des arènes et qu'elles ont quasiment toutes la même construction, le jeu n'arrive pas par des situations, par, je sais pas, une problématique de level design, te dire, ah bah cette fois-ci je peux pas utiliser des pouvoirs au corps à corps, faut vraiment que j'aille taper plus loin, donc je vais essayer une combinaison qui fonctionne comme ça, ou une situation où vraiment la discrétion ça serait à privilégier. Il ne te pousse pas comme ça à explorer justement le plein potentiel qu'il peut offrir via tous ses pouvoirs. Et justement, c'est là que la plage est intéressante.
Mmh. Oui, parce que le fait de t'enlever ton pouvoir le plus coûteux, c'est un peu une stratégie du bâton. Tu vois, on te punit un petit peu. C'est vraiment te pousse de ta zone de confort. Mais ça génère évidemment de la frustration. Alors que dans la plage, il y a ces espèces d'épreuves, il y a différents types d'épreuves, des contre-la-montre, où on a un seul tour de U-turn pour tuer tous les ennemis, voilà, il y a différents types de trials comme ça, et il y en a un où il t'impose des pouvoirs que tu as, donc c'est pas à toi de faire ton build, c'est non, ton build il t'est imposé. Et du coup, ça te force à jouer d'une manière différente, et sauf que les pouvoirs qui t'imposent, bah, ils ont été un petit peu réfléchis en amont, c'est des combinaisons qui marchent, en fait, qui sont intéressantes, il y a des synergies qui marchent bien, et ça m'est arrivé, moi, une fois, à la plage, de vraiment faire une épreuve où je me dis, ah, tiens, ça, c'est cool, tu vois, ça, j'ai envie de le faire, ça marche bien, et du coup, je l'ai utilisé en jeu, tu vois, c'est plus une stratégie, du coup, de la carotte, où on m'a dit, hey, c'est bien, ça, tu vois, on m'a pas foutu des brocolis dans la tronche, on m'a dit, bouffe tes légumes. Et en plus, pour reprendre l'image, j'imagine Benoît à côté qui met son pouvoir le plus fort dont il s'en fout, et j'imagine le mec qui rajoute une couche de fromage fondu sur les brocolis, c'est en mode ouais, je vais les manger, mais à ma manière, tu vois. Mais là, c'est vraiment, on m'a cuisiné un petit truc, tu vois, qui est sympa, on t'a dit tiens, voilà, on a mis des brocolis dans ce plat-là, et tu sais, j'ai goûté, j'ai dit ah ouais, c'est vrai que c'est bon, tu vois, bah ouais, je vais manger mes légumes, comme ça, c'est intéressant.
C'est ça, en fait, la plage, c'est le top chef du game design, alors qu'en fait, le reste du jeu. Non, mais c'est important parce que tu vois, la plage, elle a vraiment ce rôle d'apprentissage. Elle te fait expérimenter des trucs et du coup, tu te rends compte, tu dis, ah, c'est une bonne utilisation. Tous les deux, toi et moi, Max, on a découvert l'attaque sournoise au sein de la plage, c'est-à-dire le fait de passer dans le dos parce que justement, on était dans une situation où il y avait un maxi ennemi et il fallait le tuer en un seul tour. Et la seule façon pour le battre, bah, c'est justement de passer dans son dos, d'enchaîner des attaques sournoises. Et là, ça permet de cumuler assez de dégâts pour le tuer. Et ça, c'est super intéressant parce que tu dis, ah, donc ça, c'est cool et j'ai envie de le faire. Et c'est comme ça, en fait, tu transposes ce que tu apprends à la plage dans le jeu. Le souci, bah, c'est que la plage, elle est optionnelle, donc t'es pas obligé de la faire. Donc là, il y a un souci, en fait, d'enseignement du jeu. Et voilà, c'est le souci, quoi. C'est que le jeu ne t'apprend pas assez et ne te met pas assez dans des situations de contrainte, en fait. Il te tape sur le bâton, mais il ne te contraint pas pour t'apprendre, en fait. Et du coup, ça marche pas trop sur la progression.
Et sinon, il y a un truc tout bête, c'est aussi, tu peux pas consulter ton build quand tu veux. Il y a pas un menu où tu regardes ton pouvoir, tu regardes les passifs qu'il fait, tu regardes... Parce que c'est un peu compliqué, comme on le disait, vraiment, tu peux mettre des pouvoirs sous un autre pouvoir, ce qui fait que ça change un petit peu son effet, ça change un petit peu l'effet du pouvoir principal, donc c'est un petit peu, voilà, c'est quelque chose qu'il faut un petit peu digérer avant de pouvoir l'utiliser, et ça on peut le faire que dans les... Je veux bien qu'on puisse changer que dans les terminales, parce que si on pouvait changer en plein combat, il y aura peut-être de l'abus, mais le simple fait de consulter, parce que moi ça m'est arrivé, je me suis dit, attends, ça fait quoi ça déjà en passif? Eh bien tu ne peux pas, en jeu tu ne peux pas regarder, tant que t'es pas un terminal, tu peux pas regarder.
Ouais, il y a tout un tas de problèmes, ce qu'on appelle user experience, hein, l'UX dans le jeu, c'est quelque chose qui est un peu plus difficile à expliquer, mais c'est le fait que les utilisateurs vont trouver facilement l'information qu'ils cherchent, qu'ils vont facilement comprendre à quoi correspond les menus, à quoi correspond un bouton, etc. Et le jeu est assez malheureusement en retard sur cet aspect-là, parce que par exemple, on parlait de la plage, oui, c'est une très bonne situation, mais souvent tu te retrouves au début d'un combat, t'as un combo, et il faudrait que tu reconnaisses les pouvoirs et les bonus actifs et passif simplement par rapport à leur icône. Si t'as pas appris par cœur les faits, le nom et les chiffres, t'es plus embêté, donc tu vas forcément être dans une logique, tu vois, de trial and error.
Et encore, parfois, ils te mettent des pouvoirs que tu n'as pas encore débloqués. C'est-à-dire que moi, j'ai eu un moment où j'avais l'explosion et je ne l'avais pas encore dans le jeu concret. Donc, c'est-à-dire qu'elle était sur la petite interface en bas. Je ne savais pas ce que c'était ce pouvoir, je ne savais pas ce qu'il faisait. Donc, t'as vraiment des soucis du X.
Et il y a des moments où vraiment, autant il y en a, oui, tu peux essayer, tu comprends ce qu'ils font. Il y en a d'autres, pas du tout. Moi, pour la plage, il y a un moment où on m'a filé un petit combo, t'as une espèce d'explosion avec un radius. Et j'avais compris parce que le jeu affiche dans l'interface les effets que ça fait. Par exemple, quand t'es en U-turn, il te dit combien de dégâts ça va faire, les malus que ça va leur mettre, et il y en a un, c'était malus, genre, il mettait genre 75% affaibli, sauf que du coup, je le faisais une fois, je me disais, ok, voilà, il est affaibli à 75%, et en fait, si j'avais pu lire la description de l'objet, j'aurais su que c'était cumulable trois fois, et ça, non, je l'ai pas su à la plage, c'était impossible de le savoir.
Et ça, c'est dommage parce que pour un jeu qui veut nous mettre dans une situation où on doit expérimenter, en fait, il nous donne pas tous les outils pour que cette expérimentation, elle soit bénéfique à notre progression et qu'elle soit surtout agréable. Parce que te mettre dans une situation où expérimenter, c'est frustrant parce que t'as perdu ton dernier pouvoir et il faut que tu ailles dans des zones optionnelles pour pouvoir réellement expérimenter, en fait, ça casse tout simplement leur intention de base, qui était de donner un jeu un peu modulable, un peu à la carte, qui était quelque chose qu'on avait déjà dans Bastion, au passage, et qu'on a d'ailleurs dans tous leurs jeux. Ce côté modulaire, mais finalement là ils ont pas créé les conditions pour que ça soit agréable et que ça puisse donner vraiment envie d'exploiter à fond ce gameplay là.
Non, mais je pense que tu mets le doigt sur un truc très important, c'est le côté que l'expérimentation n'est pas associée à du plaisir, en fait. Elle est associée à de la frustration. Et du coup, forcément, ça te met dans quelque chose de très paradoxal et qui ne peut pas fonctionner, quoi.
Et comme tu le disais, à la carte, il y a la difficulté, parce que ça aussi, il faut en parler.
C'est vrai.
Toujours dans des soucis, cette fois, d'interface, de UI, c'est pas très clair, il y a une espèce de dessin. J'ai l'impression que ça représente le transistor, où tu peux activer à chaque fois, tu gagnes un niveau, tu gagnes un pouvoir, une espèce de truc, tu peux débloquer des slots pour tes passifs,
ouais, c'est ça.
Et tu gagnes une option de difficulté. Et les options de difficulté, c'est du type, quand les ennemis meurent, alors de base, ils génèrent une espèce de cellule qu'il faut récupérer, sinon ils ressuscitent, et ça peut être, la cellule, elle a un shield autour d'elle, ou alors ça génère deux cellules, bref, des trucs qui sont un petit peu chiants, mais ça rapporte plus d'XP, donc ça c'est un pari, c'est un petit risk and reward, et c'est à nous de le moduler. C'est dans une interface déjà qui est pas très claire. Le jeu te dit pas, ah, tiens, tu peux mettre ça rend le jeu plus dur, mais tu gagnes plus d'XP. Il faut le lire un petit peu dans des petites lignes, et c'est à toi de dire, ah ok, c'est ça, c'est onglet en fait, c'est pour la difficulté. Et en plus de ça, c'est que déjà il y a une grosse couche d'incertitude un petit peu avec ton build, tu vois ce qu'il va faire. Dès que tu mets un autre passif, tu dis est-ce que ça va marcher en combat, je sais pas, et je vais pas pouvoir modifier mon build avant d'arriver au prochain terminal, donc c'est toujours un risque aussi de changer ton build, parce que si ton build il marche pas, tu vas pas pouvoir le changer avant on sait pas combien d'arènes, donc déjà ça c'est un petit peu embêtant. Et là imagine tu rajoutes de la difficulté en plus. Le fait que les cellules elles puissent avoir un shield autour d'elles, ça change aussi drastiquement ton jeu, ça peut invalider ton build, éventuellement, je sais pas à quel point c'est possible, hein, mais en tout cas ça peut rendre beaucoup plus difficile tes parties. Si par exemple toi t'avais beaucoup misé sur le fait de convertir les ennemis pour qu'elles deviennent des alliés, bon, contre les cellules shield, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus optimisé, et t'imagines, tu changes la difficulté, boum, ton build il est plus adéquat, c'est un gros risque en fait, c'est pas juste un risque statistique là pour le coup, c'est quand même, c'est une grosse couche d'incertitude, et du coup moi je l'ai pas vraiment fait, quoi.
Et surtout que la récompense en face n'est pas assez valorisante. C'est, 2, 3, c'est juste un petit boost. Voilà, ouais. C'est un boost d'XP. Et du coup, vraiment, la carotte qu'il pourrait avoir derrière le risque, parce que c'est toujours ça, hein, c'est risque-reward, n'est vraiment pas assez significatif pour que tu te dises que c'est un intérêt. Et bon, moi, je l'ai utilisé pendant un petit moment, mais ça m'a saoulé. Et après, j'ai fini le jeu comme ça. Et je me suis pas dit, oh, j'aurais vraiment dû moduler la difficulté parce que j'aurais gagné, j'aurais vu plus de choses du jeu. Alors, effectivement, il me manquait quand même quelques capacités. Je crois pas que je les avais toutes débloquées à la fin. Je les avais pas les 16, mais je me suis pas dit oulala, il m'a manqué quelque chose, quoi.
Bah, comme de toute façon t'as pas forcément ultra envie d'expérimenter, que t'en aies 4 de plus 4 de moins, c'est pas tant une différence. Mais après, ce qu'il faut comprendre, c'est que je pense que cette difficulté à la carte, elle est nécessaire en fait. Disons que c'est une des seules façons vraiment de voir la difficulté pour un jeu où toutes les combinaisons d'actions sont possibles, puisque s'il rendait un type de jeu très dur, du coup ça te pousserait dans une autre direction de build. Donc si la volonté du jeu c'est de te faire expérimenter, et c'est un peu de dire que n'importe quel build entre guillemets est valable, bah ça veut dire que la difficulté aussi c'est à toi de la moduler. Le jeu ne saurait pas trouver une formule magique de difficulté qui conviendrait aux centaines ou aux milliers de builds possibles.
Et tu le disais tout à l'heure, Hugo, c'est que le jeu, comme il nous met jamais en difficulté, il nous pousse jamais vraiment à réfléchir dans les choix des arènes. Bah, en fait, c'est assez étrange comme choix de la part du studio, parce que ils mettent en place donc le système de plage, qui est un truc optionnel. Ils mettent en place le système de difficulté, qui est un menu si t'appuies pas sur le shoulder quand t'es dans le menu juste sur le terminal. C'est-à-dire que tu peux choisir que d'un certain passage. Tu peux complètement passer à côté de tout ce truc-là, alors qu'ils auraient pu, comme c'est souvent le cas dans des jeux où justement à la XCOM ou des jeux justement où il y a une volonté comme ça de te pousser, créer des situations qui sont différentes, comme tu le disais, tout simplement tu empêches par exemple Red de pouvoir traverser un endroit et elle est obligée d'utiliser des attaques à distance. C'est tout con, c'est un truc très basique qu'on voit dans beaucoup de jeux, mais ça permet de forcer un peu les joueurs à essayer de s'adapter. Mais comme le moment où tu peux t'adapter il n'est que avant ou après un combat, en fait tu te retrouves devant le fait accompli et tu te dis ah bah ça marche pas. Et donc effectivement ça génère malheureusement beaucoup trop de frustration. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à force qu'on le redise, tous les éléments de gameplay de Transistor, ils existent exactement de la même manière dans Hades. Ils ont été repris tels quels dans Hades, parce que justement Hades en fait c'est vraiment une espèce de suite à la fois de Transistor et de Bastion. On y reviendra peut-être un peu après.
Bah, on peut juste le mentionner là rapidement, c'est qu'il faut rappeler vraiment les challenges, hein, comme ça je viens de le dire, mais quand on rend tout possible, c'est dur du coup de moduler vraiment, de cadrer une expérience qui serait aussi bien pour toutes. C'est aussi des soucis qu'on peut voir, on a pu le citer, je sais pas, avec Prey ou avec Dishonored. À partir du moment où t'as plein de pouvoirs possibles mais qu'il faudra faire des choix, ça veut dire que toutes les épreuves qui sont face à toi doivent être franchissables avec n'importe quel pouvoir. Ça veut dire que tous les styles de jeu doivent marcher, donc les zones de confort en fait elles sont c'est une fatalité je pense de ce genre de game design. Et comme tu le dis, donc Hades qui est du coup le dernier jeu de Supergiant Games, hein, si vous savez pas, qui est un roguelike, le roguelite c'est une réponse en fait de design à ce genre de mécanique, puisque déjà t'as une part d'aléatoire, c'est-à-dire que t'auras pas toujours le même build. Alors j'ai pas joué à Death, hein, mais j'imagine que c'est toujours à peu près les mêmes piliers, tu vas avoir en fonction de tes runs, tu vas avoir certaines capacités et pas d'autres, donc ça te pousse à expérimenter, ça va te mettre face à des mécaniques que t'es obligé d'utiliser, et tu sais que tu vas mourir et te retaper certaines zones du jeu. Donc à partir du moment où tu sais que tu peux expérimenter avec ton build, que tu vas mourir, que tu vas recommencer, que tu pourras tenter un autre build, le roguelike, du coup, oui, effectivement, je suis pas étonné que ça marche très bien, en fait, pour ce genre de proposition.
Et du coup, je pense que c'est ça, finalement, qui fait que Transistor, en 2020, c'est un jeu qui nous paraît peut-être un petit peu moins facile à apprécier, on va dire, parce que on a l'impression qu'il y a vraiment deux jeux qui coexistent. Vous l'avez bien remarqué, je pense que jusqu'ici, dans la conversation, il y a un moment où on s'est vraiment attardé sur l'univers, sur la narration, l'espèce de mood qui se met en place, et là, qui est presque fait via du visual novel, hein. Il y a vraiment des petits moments où le jeu se met sur des espèces de petites images qui se déplacent très lentement et qui viennent vraiment nous inscrire dans le mood du truc, cette espèce de narration très intimiste qui se met en place grâce à la voix. Et de l'autre côté, on a un jeu, une espèce de Diablo-like qui est entre calcul, un peu entre deux chaises, entre du tour par tour et du temps réel. Et puis aussi, cette espèce d'ambition de nous proposer une expérimentation constante, mais qui n'arrive pas à être mise en place par le prisme de la structure du jeu. Je fais des phrases vachement compliquées, mais c'est un petit peu ça, quoi. C'est-à-dire que le jeu, il a envie de s'exprimer de plein de façons différentes, mais le jeu ne lui, la structure du jeu, le level design, les situations ne lui répondent pas, et du coup forcément on tombe dans une espèce de zone de confort. Et du coup c'est vrai qu'on a un jeu qui est entre deux eaux, Et il y en a un que j'aime bien, il y en a un que j'aime bien aujourd'hui, je pense que c'est vraiment le côté narration, c'est ça que je retiens du jeu, c'est vraiment ce mood-là, le personnage de Red, et il y en a un autre qui m'a paru beaucoup plus bancal, et qui ne va pas, ils vont pas les deux bien ensemble, tu vois, et voilà, je pense qu'on parle d'Hadès tout à l'heure, mais c'est vraiment ça, c'est-à-dire que le jeu ne correspond pas à une structure linéaire, narrative très forte, où la narration s'exprime comme ça, quoi.
Bah, du coup, et ça donne un rythme que je trouve très haché, en fait, comme on disait, il y a des moments où on a l'impression que c'est des successions d'arènes, et c'est le cas, tu vois, on voit un terminal, on a une arène, parfois on a des terminaux, alors qu'on n'a pas de... alors qu'on n'a pas de... On n'a pas de nouveaux pouvoirs à débloquer, donc ça vient rajouter un petit peu une surcouche de jeu qui sert un petit peu à rien, entre guillemets, parce que d'autres joueurs, eux, auraient débloqué, hein, s'ils avaient mis la difficulté plus élevée, voilà, peut-être qu'ils auraient débloqué de nouveaux pouvoirs, ou des gens qui aiment expérimenter, qui veulent changer leur build, mais bref, on a effectivement ces phases de cinématique entre guillemets où il y a ces artworks un petit peu superposés où elle va faire des phases en moto, une arène, une autre arène, un dialogue, une espèce de vote du public qu'on peut consulter, les plages, une épreuve, est-ce qu'on fait une épreuve, est-ce qu'on en fait deux, est-ce qu'on en fait trois, est-ce qu'on en fait quatre, ensuite on a une autre arène ou une cinématique. Moi j'ai trouvé j'étais pas dans le flow, tu vois, c'était vraiment pareil,
parce qu'on papillonne entre deux, on papillonne entre plusieurs jeux. C'est-à-dire qu'on a un jeu vraiment de baston, de beat'em all, on a un jeu de puzzle qui est à la plage, où là, il faut vraiment réfléchir via les contraintes qu'on a, et puis on a un visual novel, un truc qui est très vaporeux, qui est vraiment dans une ambiance c'est vraiment l'atmosphère qui prime. Donc on papillonne un peu entre ces trois trucs-là, et il n'y a pas une espèce de... L'univers arrive quand même à sauver le tout, je le pense, hein, vraiment, je trouve que la voix et tout, ça arrive quand même à sauver les meubles, mais il n'y a pas un espèce de liant qui arrive à mettre tout ça bien ensemble. Et je pense qu'aujourd'hui, voilà, les gens qui nous écoutent régulièrement dans l'émission, ils savent qu'on valorise beaucoup cette idée de convergence, tous ces trucs qui vont aller dans une même direction, et là, on a vraiment l'impression que le jeu, il a deux têtes, quoi.
Et c'est pour ça que je pense que c'est vraiment intéressant de s'intéresser aujourd'hui, en 2020, à Transistor, parce que moi, je l'avais fait à l'époque, donc quand il était sorti en 2014, et j'étais vraiment à fond dans ce truc-là, parce que justement, je pense qu'à ce moment-là, on n'était pas encore conscient que le jeu vidéo allait dans une nouvelle direction, qui était qu'on allait pouvoir réellement faire converger gameplay et narration. Hein, il y avait encore des grandes discussions à l'époque sur le fait que l'histoire allait dans une direction, le gameplay allait dans l'autre, et il y a tout un tas de jeux qui sont arrivés, que ce soit des Célestes, etc., qui permettent en fait de nous montrer qu'en réalité, on peut réussir à tout faire converger, et du coup, on y rejoint, puisque je l'ai refait moi aussi il y a quelques semaines sur PC, je me suis rendu compte que j'aimais beaucoup moins le jeu que ce que j'en avais gardé comme souvenir à l'époque, parce que justement je m'attendais à quelque chose de plus cohérent, de plus uni, et dans mon souvenir c'était un jeu qui était parfaitement lié justement à cause de la musique et de l'atmosphère, et finalement ce qu'on garde de ce jeu c'est la musique, et donc ça ne me surprend pas, si vous voulez, comme je le disais tout à l'heure, que l'auteur il considère ça comme drôle, que les gens ils aiment plus le jeu après coup, parce que le jeu il te laisse une impression qui va au bout d'un moment effacer vraiment, tu vas oublier les petits défauts du jeu et tu vas garder
qui
simplement
bien le, ouais. le mood vieillit bien, il reste bien en toi.
C'est ça, tu gardes en fait l'essence du jeu, c'est cette musique, c'est cette ambiance, c'est ces couleurs, c'est le design très particulier, c'est ça que tu vas conserver, et donc Transistor, dans la mémoire des gens qui l'ont fait, je pense à l'époque, et en tout cas c'était mon cas, c'était un jeu sympa, un peu chaleureux, un peu dramatique, enfin il y avait quelque chose d'assez unique, et quand il rejoue, en réalité c'est plus bancal, c'est un peu clunky, tu sens que ça va pas vraiment, ça fonctionne pas si bien que ça.
Oui, parce qu'on l'a toujours pas dit, mais un truc qui est très original même aujourd'hui, c'est qu'il y a un bouton pour fredonner. Et c'est pas juste des petits...
Oui, c'est vrai.
C'est pas juste des petits... C'est vraiment des mélodies. Il y a vraiment deux pistes, tu vois. Il y a la musique et il y a la musique telle qu'elle est fredonnée par la chanteuse, qui est d'ailleurs qu'on va entendre chanter sur différentes musiques. Hein, c'est entre guillemets une vraie chanteuse. Et en fonction des niveaux, en fonction de la musique en fond que tu auras, ce qu'elle fredonne, c'est différent. C'est en accord avec la musique. C'est juste agréable, en fait. Moi, il y a des moments, je me suis posé, juste, je la regarde fredonner, et c'est cool. Et c'est ça, tu vois, ce que tu disais, c'est que c'est vraiment une expérience sensorielle où tu vas vraiment juste passer parfois des petits bons moments. T'as la plage aussi qui est très chill. Tu peux jouer au ballon, tu peux débloquer aussi les épreuves, elle débloque des musiques que tu peux jouer pendant que t'es à la plage, donc tu peux vraiment passer des bons moments dans Transistor. C'est peut-être aussi l'occasion de relever quelques tentatives du jeu d'abattre un petit peu de les façades qu'il y a justement entre gameplay, narration et compagnie. On le disait, on peut en apprendre un petit peu plus sur le lore des persos en équipant leurs pouvoirs. Mais bon, comme on le disait, tu vois, ça reste un peu. C'est un truc qui reste un petit peu rébarbatif, tu vois. Ça reste un peu du Wikipédia que tu débloques en équipant des pouvoirs. Tu vois, sur le papier, je me dis l'idée, il y a peut-être quelque chose à creuser, tu vois, où tu peux en apprendre un petit peu sur les persos. J'ai pas l'impression que les pouvoirs reflètent plus que ça leur personnalité.
Ouais,
ou
une
des
personnalité,
choses comme
ouais.
Ça aurait pu être intéressant, mais bon. Et t'as autre chose qu'on a pu citer, c'était que. Quand on se bat contre Sibyl, par exemple, les paroles de la musique qui se jouent en fond en disent un petit peu plus sur la situation, apportent un petit peu de contexte. Il y a aussi une musique qui joue quand on se bat contre le fameux Spine, là. J'ai un petit peu oublié, mais il y a des paroles en rapport avec ce qu'elle a vécu. Donc, il y a des petites choses quand même qui traversent un petit peu les différents compartiments, mais comme on disait, ça reste beaucoup. Il y a des façades qui sont quand même très solides entre les phases de jeu, quoi.
Et tu le dis, c'est vraiment la partie sonore, elle est vraiment centrale dans Transistor, mais dans les jeux Supergiant aussi, un truc qu'on n'a pas forcément encore mentionné totalement, mais toi qui t'avais vraiment intéressé, Max, quand t'étais tombé dessus, c'est le coup que Darren Korb, le compositeur, d'une
C'est
part,
un
c'est pas
fou,
un
c'est un fou.
compositeur, voilà, c'est un fou, c'est pas un compositeur freelance, tu vois, qui va bosser. Je parle par exemple, on va prendre Olivier de Rivière, là, parce qu'on sait qu'il va faire la musique de Street of Rage 4. Lui, il est engagé, il fait sa musique, il passe à un autre projet. Darren Korb, il bosse au sein du studio de Supergiant et il s'occupe non seulement de la musique, mais également du sound design et de tout l'habillage sonore du jeu de manière générale. L'idée, par exemple, que quand on est en réalité en train de réfléchir et de préparer son mouvement grâce au mode turn, et le fait que ça fredonne, c'est une idée que lui, il a eue, et c'est probablement quelque chose que quelqu'un qui n'est pas musicien n'aurait pas imaginé. Et donc son impact sur le résultat final du jeu, pour moi, il est central, et le boulot de Darren Korb de réussir comme ça à mélanger tout un travail sur le son, la musique, de vraiment donner une personnalité via les petites chansons, les petits moments où elle fredonne et tout, c'est ce qui fait finalement que le jeu arrive malgré tout, pour moi, à fonctionner. Tu vois, malgré ce côté bancal et bicéphale comme ça entre un gameplay bizarre et une narration très forte, la musique permet de lier un petit peu tout et sans ça, pardon, sans ça, je pense que vraiment le jeu n'aurait pas eu cet impact qui nous laisse comme ça des années encore après.
Si vous voulez en voir un petit peu plus sur Darren Korb et sur aussi toute la partie artistique chez Supergiant, donc il y a le docu No Clip, là ils font toute une série de docus sur Hades, et on voit un petit peu du coup Darren Korb, et lui donc il supervise tout, il supervise vraiment l'enregistrement des voix, les effets audio, il fait la voix du perso de Hades, donc celui qui s'auto-record, qui s'occupe de ça, qui est dans le studio mais qui gère aussi l'enregistrement, j'ai l'impression. Comme tu disais, c'est le compositeur, il joue aussi des instruments, on le voit faire de la batterie, du luth, de la guitare électrique, enfin, le mec, j'ai l'impression qu'il fait cinq métiers en fait dans le studio, tu vois, c'est assez impressionnant à voir.
Et ça me fait beaucoup rigoler parce que Supergiant, tu sais, c'est vraiment des fanatiques de Diablo, hein. C'est vraiment un jeu qui a une énorme importance pour eux. Hades, c'est encore une de leurs nombreuses tentatives de reproduire Diablo, mais un peu à l'envers. Ça, j'ai déjà eu l'occasion d'en parler. Et du coup, dans le studio à l'origine de Diablo, Blizzard North, il y avait un type qui avait exactement le même rôle, c'était Matthew Ullmann, qui avait ce rôle comme ça, un peu d'homme à tout faire, hein, qui était à la fois le musicien, mais qui faisait aussi du QA, qui faisait du debug, qui faisait tout un tas de trucs. Et la musique de Diablo, c'est probablement ce qu'on en garde tous aujourd'hui. T'entends trois notes de la musique de Tristram, normalement. Tout le monde a une larme, évidemment, les gens qui ont un cœur, hein, pas comme Hugo et Max d'une certaine chaîne,
ou qui n'y ont pas joué,
ou qui n'y ont pas joué, voilà, tout simplement.
Désolé,
c'était juste pour le taunt. Mais voilà, et c'est rigolo parce que, en fait, ils arrivent bizarrement, tu vois, avec des années d'écart, à reproduire. Il y a des espèces de parallèles qu'on peut tirer entre les gens qui avaient fait Diablo et les gens qui bossent chez Supergiant, et ils se retrouvent dans des situations un peu similaires. Bah, ça me fait beaucoup rigoler de voir ça. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que Darren Korb il a un rôle central dans l'évolution de ce studio-là, et c'est très rare. Parce que finalement, la musique, c'est souvent quelque chose qu'on met en avant et qui est de plus en plus mis en avant ces dernières années. Mais un truc tout bête, des concerts de Supergiant, il y en a tous les ans à la PAX, mais ça fait des années qu'ils font déjà des concerts. Le fait que Darren Korb et Ashley Barrett, la chanteuse, ils bossent tous les deux et ils font des concerts, ça fait très longtemps qu'ils font ça. Et donc il a vraiment comme ça, voilà, une envie de mettre en avant sa musique et son travail sur le son depuis le début. Et ça définit en réalité, je pense, l'image de Supergiant.
Ouais, il leur manquait effectivement d'arriver à trouver le gameplay qui va vraiment bien avec, et peut-être qu'avec Hades, ça y est, ils ont pu enfin aller au bout de leurs différentes démarches, parce que même cette narration, du coup, qui est beaucoup plus par texte, j'imagine que dans Hades, ça fonctionne mieux, parce que c'est de la réitération, tu recommences, il y a une durée de vie qui est beaucoup plus étendue, et du coup, tu vas passer plus de moments avec les personnages, ils ont plus le temps de se développer et d'approfondir le lore, et du coup, je pense que ça marche mieux qu'avec la structure d'un transistor, quoi.
Bah, très clairement, Hades, sans non plus trop spoil le truc, comme c'est un jeu dans lequel, quand on meurt, on retourne chez son papa Hadès, puisque l'objectif c'est d'essayer de s'enfuir, la mécanique de jeu du fait de mourir, elle est justifiée par l'univers, et donc on est dans une espèce de cohérence totale où absolument tous les éléments du jeu peuvent être expliqués par de la narration, et le jeu fonctionne bien mieux comme ça, et c'est très impressionnant parce que j'avais l'impression que tout leur jeu était comme ça, mais en réalité c'est le premier, Hadès c'est vraiment le premier qui fait ça, donc tu vois, on avait peut-être quand on jouait à Transistor cette intuition que ça allait dans cette direction là, mais on n'en était pas encore, et là avec Hadès ils arrivent à aboutir à une idée qu'ils avaient peut-être depuis des années.
Et moi, Transistor, c'était le premier jeu Super Giant Games auquel je jouais. Et comme on l'a dit, bon, en 2020, c'est peut-être, on a un regard peut-être un petit peu plus critique. Et bon, je peux pas affirmer que j'aurais adoré en 2014. J'en sais rien. Mais en tout cas, je suis quand même content de l'avoir fait. Même si j'ai pas adoré, j'ai apprécié vraiment le côté sensoriel, l'ambiance qu'il y a. C'est quelque chose qui va me rester. Le fameux bouton pour fredonner. Voilà, ça, c'était une bonne idée. Et puis, les jeux Super Giant, en tout cas, les trois premiers, c'est des jeux qui sont assez courts. Tu vois, il y a aussi ce côté en 2020, on en cherche un petit peu plus, tu vois, des jeux qui durent pas 20-30 heures, ben là c'est 10 heures et c'était bien, enfin j'ai quand même bien aimé dans le sens.
Ouais, c'est même pas 10 heures, c'est encore plus
court.
Oui,
à peine, ça dépend aussi du temps que tu passes à la plage aussi.
Parce que t'as pas assez expérimenté.
Trop de pina colada dans le hamac.
Et du coup, bah, pour résumer un peu tout cet épisode, c'est pour ça, je pense que c'était intéressant de parler de Transistor plutôt que d'un jeu plus récent ou même juste de Bastion qui était leur premier essai. C'est que on était un peu à un moment charnière, un peu de leur histoire.
Une transition.
Oui, voilà, incroyable. J'ai pas osé la faire. Merci, merci Hugo. Mais ils étaient vraiment à un moment de leur évolution où ils étaient encore en train de se chercher. Et ce qui est cool, c'est que ça les a pas non plus plantés. C'est-à-dire que ces défauts qu'on a pu relever, ce problème un petit peu de deux jeux en un, c'est pas quelque chose qui a complètement planté le jeu. C'est quelque chose qu'on peut relever aujourd'hui. En 2020, mais à l'époque ça a bien fonctionné, et aujourd'hui ce qui est intéressant et qui est je pense une bonne manière de fermer un peu cet épisode, c'est de se dire que ben, en fait ils ont réussi par la suite à arrêter de séparer comme ça les choses et à réussir à faire tout converger avec Hadès, qui est un jeu moi, que je vous recommande vraiment chaudement, où ils gardent en fait tout ce qu'ils avaient déjà fait à l'époque, que ça soit dans Bastion ou Transistor, on retrouve
les bonnes idées, quoi.
Tous les mêmes éléments, hein. y a vraiment, c'est vraiment un espèce de maxi best-of de tout ce qu'ils ont fait jusque là. Et ils arrivent à le faire. Et ce qui est cool, c'est que bah, ils ont eu finalement cette chance, ils ont eu ce temps, et ça permet de montrer que bah, un studio, c'est également une identité, une équipe, tu vois, qui se crée et qui se constitue,
et qui grandit, quoi.
Voilà, exactement, qui grandit au fil des années. Et Super Giant, bah, c'est rigolo parce que on les voit évoluer depuis une dizaine d'années. Et la différence entre Bastion, même pas que en termes de production, vraiment en termes de, tu vois, de feeling et de ce qu'ils essayent de faire et de ce qu'ils essayent de transmettre, on voit l'évolution se faire au fur et à mesure des années. Et je trouve ça très cool de pouvoir suivre comme ça justement bah, leur histoire en direct et de les voir avancer. Et moi, ça me fait vraiment super plaisir.
Je trouve que ce qui illustre le mieux ça, c'est vraiment la patte de Gen Z, la directrice artistique. Je trouve que quand tu regardes Bastion et que tu regardes Hadès, que tu regardes les personnages, les traits, il y a une espèce de confiance en elle. J'ai l'impression qu'elle a gagné. Le jeu est beaucoup plus bold, qui est beaucoup plus audacieux, beaucoup plus fort comme ça, beaucoup plus de personnalité. Et on ressent qu'il y a une confiance qui s'est gagnée au fur et à mesure de leurs itérations, de leurs idées, de leurs expérimentations qui n'ont pas toujours fonctionné. Et là, voilà, 10 ans après, c'est un studio déjà qui est toujours là, et ça c'est pas rien quand même, c'est des gens qui arrivent à avoir une vie à peu près saine, en plus bah là avec le modèle d'Hadès ça va leur permettre d'encore plus étaler leur gain de revenus, de faire des mises à jour, etc. Et voilà, ils sont toujours là et ils gagnent en maturité, et voilà, c'est ça fait plaisir en fait de voir des gens qui font des trucs, tu vois, sérieusement, qui le mettent avec beaucoup de passion, qui se remettent en question, qui essaient même des choses un peu différentes, parce que Payeur c'était quand même ils ont fait un petit virage, ils ont osé et puis ils sont revenus à quelque chose de plus Diablo-like avec Hadès, mais voilà, ils gagnent en maturité et c'est vrai que c'est intéressant de voir leur évolution.
Ouais, parce qu'ils ont gardé en fait leur identité, c'est-à-dire cette idée d'avoir une identité visuelle très forte avec le boulot de Gen Z, la musique qui est omniprésente avec le boulot d'Aaron Korb, la voix de Logan Cunningham qu'on entend tout le temps et qui est forcément associée au jeu de Supergiant. Ils ont gardé ces piliers-là et ils ont tous grandi, ils ont tous évolué, ils ont tous approfondi, on va dire, leur approche autour de ça, et on les voit évoluer. Et effectivement, bah, rien que pour ça, ça mérite de s'intéresser à leur jeu parce qu'ils sont dans une espèce de cheminement vers quelque chose de mieux, et ils ne font que progresser. Donc ce que j'espère et je leur souhaite, c'est que bah, au fur et à mesure des années, ils vont continuer de pouvoir expérimenter et à se faire plaisir, parce qu'ils acquièrent au fur et à mesure, comme tu dis, la confiance pour nous proposer quelque chose qui va aller peut-être encore plus loin. Donc bah, j'ai vraiment hâte de voir ce que ça sera l'après Hadès et l'après-après, parce que ils vont peut-être réussir à nous faire quelque chose de très surprenant le jour où ils vont arrêter d'essayer de faire leur Diablo-like. Maintenant qu'ils l'ont fait, peut-être qu'ils vont partir dans un truc full narration, et ça pourrait être vachement passionnant, je pense.
Bon bah écoutez, voilà messieurs, je crois qu'on a fait le tour. C'est la fin de ce premier épisode en confinement. Encore une fois, merci de nous avoir écoutés. On s'excuse. Alors voilà, c'est Maxime qui va gérer encore une fois au montage. Vous pouvez lui aussi le remercier. Voilà, j'espère que ce sera aussi bien que d'habitude. Malgré tout, j'imagine que le prochain qui sortira dans 2 semaines, parce que bah voilà, on tient toujours le rythme, sera encore enregistré dans ces conditions-là. À moins qu'il y ait vraiment une sûrement, surprise ouais. que la situation s'améliore. Je pense qu'on sera encore dans cette situation-là. Donc,
de toute façon,
voilà,
comme on vient
parti.
De le dire, ça va arriver. Donc voilà, c'est voilà. l'influence fin de game, de toute façon.
donc voilà, on essaie de faire au mieux. On espère que, bah, que, voilà, que la qualité est toujours là. Merci de nous avoir écoutés. Merci de faire un tour sur notre Patreon si vous voulez continuer à nous soutenir pendant cette période difficile. Continuer à parler de gros jeux. Le prochain épisode, je crois qu'on va faire difficilement plus gros que celui-ci. On remercie encore une fois Sœurs d'édition pour leur soutien et puis on se retrouve si on est encore vivant, si la société tient encore debout, on se retrouve dans 2 semaines dans un nouvel épisode.
Salut, ciao.
Ciao.